Europe 1,
18h, 20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue, très heureuse de vous retrouver. On est lancé pour 2 heures d'informations, d'analyse, de débat avec nos invités également. C'est votre grand journal du soir. Bonsoir Sébastien Krebs.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Toute l'info avec vous dans un instant. À la une ce soir, le cardinal Barbarin, relaxé par la cour d'appel de Lyon dans l'affaire Préna, il s'est exprimé il y a quelques instants à peine. Il veut de nouveau présenter sa démission au pape. Nous serons à Lyon dans un instant et je ferai réagir à 18h20 sur cette antenne, François Devaux, le président de l'association La Parole Libérée, mais surtout une des victimes du père Préna. Et puis à 19h30, un rendez-vous à ne pas rater sur Europe 1, la patronne d'Air France, Anne Rigaille, nous rejoindra avec l'explorateur Bertrand Piccard. Ils seront avec nous dans ce studio. Ensemble, ils imaginent l'avion de demain. On parlera bien sûr de l'actualité brûlante et d'Air France qui suspend ses vols à destination de la Chine à cause du coronavirus. C'est comme ça qu'on vit ensemble le monde qui change sur Europe 1. Toute l'info, bien sûr, s'élance jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Cette décision permet de tourner une page et pour l'église de Lyon, c'est l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre.
Coup de tonnerre judiciaire, le cardinal Barbarin est donc jugé innocent, relaxé en appel des accusations de non-dénonciation d'agression sexuelle du père Préna.
Le cardinal veut prendre du champ, il va à nouveau remettre sa décision, sa démission au pape.
300 Français en cours de rapatriement depuis la Chine, ils seront placés en quarantaine pour 2 semaines.
Face au coronavirus, Air France décide à son tour de suspendre tous ses vols vers la Chine.
Dans ce journal également, une bouffée d'oxygène pour les hôpitaux marseillais, 337 millions d'euros débloqués pour de nouvelles infrastructures.
Et on espère avoir du matériel, avoir des infirmières, des aides-soignantes, pouvoir travailler dans des bonnes conditions pour les patients.
Nous irons aussi à Londres à la veille d'une bascule historique. Le Brexit, c'est demain.
Thank you, Europe. Merci l'Europe, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, d'avoir travaillé avec nous. Je suis désolée, vous allez terriblement me manquer.
Enfin, les ambitions du 15 de France, version Fabien Galthié, pour son entrée dans le tournoi des 6 nations dimanche. La bourse de Paris en berne à moins 1,4%, 5871 points pour le CAC 40, plombé par les incertitudes liées au coronavirus.
Et la tendance météo, c'est avec vous Anissa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Alors demain, beaucoup de nuages, c'est un plafond gris foncé hein, qui se met au-dessus de la France demain sur quasiment tout le pays. Des averses sont également prévues et surtout des températures vraiment très douces. Demain après-midi, on va frôler la barre des 20 degrés.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Le cardinal Barbarin est donc innocent. Voilà ce qu'a dit la justice au terme de son procès en appel. Relaxé face aux victimes du père Préna qu'il accusait de ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles. Jean-Luc Boujon, vous avez suivi à Lyon l'annonce de ce jugement. Et le cardinal Barbarin, qui n'était pas présent tout à l'heure, vient de s'exprimer. Il va à nouveau présenter sa démission au pape François.
Effectivement, il a en fait convoqué une conférence de presse il y a à peu près une heure au diocèse. Il est apparu assez serein, sans doute soulagé à l'issue de son procès. Puis il a lu effectivement un texte très court où il annonce qu'il remet à nouveau sa démission au pape François, comme il l'avait déjà fait il y a pile un an après le procès en première instance.
Ce midi, j'ai pris acte de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a déclaré que je ne suis pas coupable de ce dont on m'accusait. Cette décision permet de tourner une page et pour l'église de Lyon, c'est l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre. C'est pourquoi de nouveau, je vais remettre ma charge d'archevêque de Lyon entre les mains du pape François. En mars dernier, il avait refusé ma démission en acceptant que je me mette en retrait pendant la durée de la procédure judiciaire. Maintenant, je peux paisiblement lui renouveler ma demande.
Alors cette fois, a priori, le pape devrait accepter, car voilà un an que le diocèse de Lyon tourne au ralenti, avec un cardinal qui n'administre plus rien. Comme l'a dit Philippe Barbarin, tout le monde attend que la page se tourne, et c'est probablement ce qui va se passer.
Jean-Luc, on se souvient que le cardinal Barbarin avait été condamné en première instance à 6 mois de prison avec sursis. Comment les juges ont motivé cette fois leur décision de le relaxer en appel ?
Alors, la cour d'appel a estimé que le cardinal n'avait pas eu l'intention de nuire aux victimes. Certes, il n'avait peut-être pas fait assez pour dénoncer les choses, mais il l'a fait malgré tout, dans la mesure de ses moyens, indique la cour d'appel. Sachant que les victimes, quand elles dénoncent les faits dans les années 2014-2015, elles sont majeures et donc elles ont les moyens elles-mêmes de saisir la justice, d'agir elles-mêmes. Des victimes qui, en tout cas, ont annoncé tout de suite après le jugement qu'elles allaient se pourvoir en cassation.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon, en direct.
Et juste après ce journal, la réaction de l'une des victimes du père Prénat, le président de la parole libéré, François Deveau, il réagira à la fois à cette relaxe et puis au propos, là, il y a quelques instants à peine, du cardinal Barbarin.
On en vient au coronavirus qui provoque des réactions en chaîne à travers le monde face au bilan qui s'est alourdi. 38 morts de plus en 24 heures, 170 décès en tout en Chine. L'Organisation mondiale de la santé se réunit à nouveau ce soir et la France lance le rapatriement de 250 de ses ressortissants.
Et oui, un avion militaire, ça y est, médicalisé, s'est posé cet après-midi à Wuhan. Un autre doit suivre dans les jours qui viennent. Les Français rapatriés seront placés en quarantaine et ce pendant 14 jours.
La Chine qui se retrouve chaque jour un peu plus isolée. Le voisin russe a fermé ses frontières. Les compagnies aériennes suspendent leurs liaisons. Bonsoir Carole Ferry.
Bonsoir.
À son tour, c'est Air France qui annule tous ses vols pour au moins 10 jours.
C'est ça, au moins jusqu'au 9 février. Air France explique que sa priorité est d'assurer la santé et la sécurité de ses clients et de ses personnels. Le trafic avait déjà été réduit pour s'adapter à la baisse du nombre de clients. L'arrêt total du trafic était une demande forte des personnels navigants. La décision a donc été prise dans l'après-midi. Alors il y aura encore quelques vols Air France depuis la Chine dans les jours qui viennent pour assurer le retour des clients présents à Shanghai ou Pékin. Ils seront assurés par des équipages volontaires. Si vous aviez un départ prévu d'ici le 29 février, vous pouvez soit reporter votre voyage jusqu'au 31 mai prochain, soit demander un remboursement. Air France ne fait finalement qu'emboîter le pas aux autres compagnies européennes. British Airways avait été la première hier à annoncer la suspension de tous ses vols, immédiatement suivi par Lufthansa. Désormais, les seules compagnies qui continuent à assurer des vols depuis Paris vers la Chine sont des compagnies chinoises. Et puis enfin, on peut noter que les compagnies de croisière MSC et Costa ont également annoncé cet après-midi qu'elles supprimaient leur départ depuis les ports chinois.
Les précisions de Carole Ferry du service économie. Et justement, vous parliez de croisiéristes. Et bien les 7000 passagers et membres d'équipage d'un bateau de la compagnie Costa ont été brièvement bloqués aujourd'hui, confinés pendant plusieurs heures en Italie. Un couple présentait des symptômes. Au final, les premiers tests sont négatifs.
Et pour être complet sur ce dossier, notez à 19h30, c'est sur Europe 1 que ça se passe, la direction directrice générale d'Air France, Anne Rigal, reviendra sur cette décision. Elle sera à mon micro dans ce studio.
Et par ailleurs, à Paris, les festivités du Nouvel An chinois, le défilé prévu dimanche est reporté.
Ah oui, c'est l'étape 2 de la réforme des retraites dont on parle maintenant. Comment remettre les comptes à l'équilibre dans le futur système à points?
La fameuse conférence de financement a été ouverte aujourd'hui par le Premier ministre Édouard Philippe. Les partenaires sociaux ont 3 mois pour aboutir un compromis sur la question du fameux âge pivot. Il faut trouver 12 milliards d'euros par an. Le Premier ministre dit ce soir avoir bon espoir et convie tous les syndicats à Matignon le 10 février.
Et pendant ce temps, Emmanuel Macron est à Angoulême, visite au salon de la BD. Il a été accueilli comme il se doit. Une image a suscité beaucoup de réactions.
Et Jean-Rémy Baudeau, vous avez suivi cette journée. Cette image, c'est cette photo, le président qui pose aux côtés d'un dessinateur avec en main un t-shirt qui arbore une caricature qui évoque les cas de violences policières.
Oui Sébastien, c'est une photo qui m'a été transmise par le dessinateur Jules, qui est donc l'auteur de cette photo. On y voit le président et Jules présentant un t-shirt avec en fait le logo du festival d'Angoulême détourné. C'est en fait un petit chat éborgné avec le slogan LBD 2020, référence aux lanceurs de balles de défense qui ont fait de nombreux blessés pendant les récentes manifestations. Jules m'explique que la photo a été prise à l'issue du déjeuner aujourd'hui avec le président, où le sujet des violences policières a été abordé. Des discussions musclées, expliquent des participants au déjeuner. Le président peut Peut-il s'afficher avec un dessin qui caricature ainsi des blessures liées à l'utilisation d'une arme par la police? Oui, dit Emmanuel Macron, qui plaide liberté d'expression et de blasphème.
Nous sommes un pays libre, démocratique, qui aime l'insolence. J'ai eu une discussion d'ailleurs ce midi avec Jules, je suis en désaccord complet avec son approche. Néanmoins, de là où je suis, je dois défendre la créativité, la liberté d'expression, y compris l'insolence. C'est ça une société libre. C'est aussi parce que nous sommes une société libre. Le président de la République, il peut accepter de poser avec un t-shirt où il y a quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord, que c'est une société dans laquelle on est en droit d'exiger de chacun le respect, la civilité, dans laquelle on peut dire que la violence est interdite.
Le président Macron qui récuse une nouvelle fois le terme de violence policière, ce n'est pas la première fois qu'il s'explique sur la question et qui confirme par ailleurs ainsi qu'il n'a pas été piégé par Jules.
Jean-Rémy Baudeau, envoyé spécial d'Europe 1 à Angoulême. Des épreuves du nouveau bac à nouveau perturbées aujourd'hui. Début d'incendie dans un lycée de Rennes. Ce sont des manifestants qui ont mis le feu aux locaux, indique la préfecture au moment où les élèves planchaient.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, Sébastien Crête, Nathalie Lévy.
Et la bonne nouvelle ce soir pour les hôpitaux marseillais en pleine crise et très mobilisés, c'est une enveloppe de 300 millions d'euros qui va être débloquée. On vous dit tout sur Europe 1 juste après.
Et puis parole de londonien ému, le Brexit c'est demain.
2 heures d'infos, votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1.
18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et cette bonne nouvelle, ce soir, dans un contexte de crise à l'hôpital public, ça se passe du côté de Marseille.
Oui, où les personnels soignants ont été particulièrement mobilisés ces derniers mois. Ils pointent le manque aigu de moyens. Eh bien, la PHM, qui regroupe les hôpitaux publics marseillais, vient d'obtenir une enveloppe de 337 millions d'euros financée par l'État et les collectivités. Nathalie Chevance, vous êtes notre correspondante sur place. C'est une bouffée d'oxygène pour les hospitaliers.
Oui, parce qu'ici, les hôpitaux marseillais partent de très loin avec une dette abyssale d'1 milliard d'euros, avec des locaux vétustes, inadaptés. Cette enveloppe va permettre de lancer un vaste chantier de rénovation sur 90% des bâtiments. Un soulagement pour le professeur Frédéric Collard, membre du collectif Interhôpitaux.
Alors, ces 337 millions vont servir à rénover les bâtiments de l'hôpital Nord et de la Timone, et ce qu'on appelle les immeubles de grande hauteur, qui sont très vétustes, à construire une maternité entièrement neuve sur la Timone et de construire un hôpital d'enfants entièrement neuf. Après, il y a d'autres projets associés, de plans pour la cancérologie, pour le SAMU. Ça va permettre d'accueillir des patients dans des conditions décentes.
Alors, tout n'est pas réglé pour autant, notamment en termes d'effectifs et de matériel. Gaëlle, infirmière, espère aussi ressentir les bénéfices de cette enveloppe.
Ah, on manque de compresses, de flacons, de solutés. On manque de tout. Eh ben, on espère avoir du matériel, avoir des infirmières, des aides-soignantes, pouvoir travailler dans des bonnes conditions pour les patients.
Voilà un chantier de rénovation gigantesque qui sera lancé étage par étage pour gêner le moins possible les patients et les personnels.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille.
Et nous sommes à la veille d'un moment historique. Vous le vivrez demain sur Europe 1, 18h20, grand forum avec nos invités pour vous expliquer les conséquences, puisque l'Union européenne aura changé de visage demain soir. Le Royaume-Uni n'en fera plus partie, ce sera à vivre aussi sur Europe 1.
Et demain, 31 janvier 2020, 23h locale, il sera minuit en France, le Brexit sera effectif. Johanna Chabas, vous êtes à Londres avec des pro-européens particulièrement émus.
Oui, ils sont réunis en musique devant le Parlement, un moyen pour ces anti-Brexit comme Suzanne d'envoyer un dernier message d'amour à l'Union européenne.
Thank you, merci l'Europe, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, d'avoir travaillé avec nous. Je suis désolée, vous allez terriblement me manquer et je suis tellement désolée de devoir partir. Merci beaucoup.
Thank you so much. Les drapeaux européens sont partout, les manifestants sont habillés de bleu et de jaune. C'est l'occasion pour Carole de partager son chagrin avant demain.
Demain, je vais être aussi abattue que quand on a eu les résultats du référendum. Au moins, au moment des résultats, on pensait qu'on réussirait à renverser la décision. Mais maintenant, c'est la réalité et ça me rend triste.
Mais en fait, ici, tous espèrent que les Britanniques vont finir par vouloir revenir dans l'Union européenne. Pour Maria, ce n'est que le début d'un nouveau combat.
Ça ne va pas se faire cette année, ni même l'année prochaine. Mais dans un futur relativement proche, il va y avoir un énorme mouvement pour dire « On a fait une bêtise, revenons dans l'Union, c'est à elle que l'on appartient. »
Elle va rester ici jusque tard dans la soirée. Pour demain, elle a prévu de s'habiller tout en bleu et à 23h, ici, au moment fatidique du Brexit, elle allumera une bougie à sa fenêtre.
Johanna Chabas en ligne de Londres pour Europe 1 et on vous retrouve évidemment demain dans la matinale de Mathieu Béliard dès 6h, 6h-9h, Mathieu Béliard, matinale très largement consacrée au Brexit avec cette question, les Britanniques réussiront-ils leur pari? Et un invité exceptionnel, Nigel Farage, le leader eurosceptique, c'est l'homme qui a provoqué le Brexit.
Et il attendait cette date, évidemment. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk, Mathieu Béliard. Et nous, on se retrouve à 18h20 demain pour ce grand forum avec des questions très pratiques que vous pouvez aussi nous poser dès ce soir au 39-21. Comment ça va se passer dans vos vies, peut-être, ce Brexit? Les sports?
Et on parle rugby.
Bastien, on parle rugby avant l'entrée des Bleus dans le tournoi Destination dimanche.
Oui, peu importe le Brexit, hein, ce sera bien contre les Anglais dimanche. Au Stade de France, Fabien Galthié, le nouveau sélectionneur, promet un 15 de France ambitieux. Seulement 12 survivants du mondial raté au Japon sont sur la liste et deux jeunes vont connaître leur première sélection. L'arrière Anthony Boutier et le pilier Mohamed Awas. Écoutez le manager des Bleus, Raphaël Ibanez.
Notre jeunesse, c'est plutôt une chance. C'est même un bonheur de se sentir jeune. Nous avons eu la volonté de créer très rapidement une bonne dynamique, une dynamique collective, une dynamique d'esprit d'alliés autour du capitaine, pour ne pas dire un groupe de frères. Et je crois qu'ils ont su très rapidement s'exprimer sur le terrain avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'ils ont senti très rapidement qu'ils étaient entourés, voilà, et que nous sommes là pour eux. Cela nous laisse juste une seule option, c'est de se lancer avec énormément d'appétit, d'enthousiasme dans cette compétition qui arrive.
Raphaël Ibanez avec Frédéric Michel. France-Angleterre, c'est donc dimanche 16h au Stade de France. Et puis en tennis, du côté de l'Open d'Australie, c'est fini pour Roger Federer, battu par Novak Djokovic en demi-finale, sans difficulté. 3-7, 7-6, 6-4, 6-3.
Et oui, ça arrive parfois pour Roger Federer. Merci Sébastien Krebs. 18h30 de nouvelles infos à Nice. Un ciel encore très chargé. Ce sera la même chose sur toute la France demain.
Oui, alors presque toute la France, effectivement, Nathalie. On va commencer par les bonnes nouvelles et l'endroit où il fera beau demain, c'est sur le pourtour méditerranéen, la Corse, les Alpes et les Pyrénées. C'est là que le temps restera sec demain, avec des nuages le matin et de belles éclaircies dans l'après-midi, donc profitez-en dans ces régions. Sur tout le reste du pays, eh bien, ce sont les nuages qui dominent, avec un ciel très couvert demain matin, un ciel qui restera couvert jusqu'au soir, avec en début de journée sur la Bretagne, la Normandie, le Limousin, la Charente-Maritime et les reliefs de l'Est, des petites pluies. Donc dans ces régions, pensez à sortir avec soit un imper, soit un parapluie, ça va être indispensable. Et au sud-ouest, sur les Landes, le Gers et la vallée du Rhône, et bien là, le soleil fera quelques petites apparitions. Les températures, elles sont au-dessus des moyennes de saison, très douces pour la période. 4 à 11 degrés demain matin, 4 à Chambéry, 7 à Rodez, 9 à Dunkerque, 11 à Paris demain matin. Et dans l'après-midi, écoutez bien les valeurs que nous aurons. De Cherbourg à Nîmes, 12 à 19 degrés, 14 à Besançon, 15 pour Paris, 16 à Bordeaux, 17 à Marseille et Saint-Jean-du-Gard et 19 degrés à Perpignan.
C'est pas réjouissant. Hein.
Et ça va continuer de grimper puisqu'on va passer la barre des 20 degrés samedi après-midi.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité dans un instant, Nathalie Lévy.
Alors, il va de nouveau remettre sa démission au pape. Le cardinal Barbarin a été relaxé en appel dans l'affaire des agressions sexuelles sur mineurs commises par le père Bernard Prénat. Il a donné une conférence de presse, hein, brève, il y a quelques minutes. Alors, que pensent les victimes de tout cela? À la fois la relaxe et puis cette démission peut-être remise. La réaction de François Deveau, le président de la parole libérée. Mon invité, dans deux minutes.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec Nathalie Lévy. Le cardinal Philippe Barbarin, poursuivi pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs, a donc été relaxé en appel dans l'affaire Bernard Prénat. Nathalie, vous recevez ce soir l'une des victimes du père Prénat, le président de l'association La Parole Libérée, François Deveau.
Bonsoir François Deveau.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté de nous répondre sur Europe 1 ce soir. Quelques heures à peine après l'annonce de sa relaxe, et on va y venir dans un instant, le cardinal Barbarin a tenu une conférence de presse, là, aux côtés de ses avocats. C'était il y a quelques minutes à peine. Il va de nouveau présenter sa démission au pape. Comment accueillez-vous cette initiative ?
Bah, je pense que c'est une sage décision. Je pense que ça va être un soulagement, autant pour lui que pour l'Église en elle-même et ses représentants. Donc, je pense que c'est sage.
Selon vous, c'est acquis cette fois, parce que c'était déjà le cas il y a un an. Il avait proposé déjà sa démission au pape qui ne l'avait pas acceptée. Cette fois, pour vous, c'est acquis. Le pape François va assurément l'accepter ?
Je pense que ce qui est acquis, c'est surtout sa prise de conscience personnelle sur la difficulté qui est la sienne de poursuivre dans ses fonctions. Donc sans doute que dans sa présentation, il laissera moins de place aux doutes sur la décision que le pape doit prendre. Donc oui, j'ai du mal à croire qu'il puisse revenir et reprendre son ministère. Donc voilà, je pense qu'il faut lui souhaiter un apaisement personnel, parce que c'est sûr que ce qu'il a dû vivre ces dernières années a dû être très violent pour lui. Et
s'agissant du pape François, a-t-il de toute façon d'autres choix pour redonner de la crédibilité à l'Église que d'accepter de toute façon cette démission ?
Non, mais je crois qu'il n'en avait pas plus
il y a un an.
Et pourtant, donc c'est pour ça. Mais voilà, souvent l'Église prend des décisions qui interrogent un petit peu. On s'attend à une évidence dans certaines décisions, et je crois effectivement que la décision de refus du pape de la première démission a eu des conséquences colossal au sein de l'institution catholique. Enfin, je le vois dans mon entourage proche, et voilà, beaucoup de catholiques n'ont pas compris et ont été assez écœurés de cette décision.
Alors, on saura prochainement ce qui va se dire, mais on sait aussi qu'ils sont très proches, le cardinal Barbarin et le pape François. On saura donc sans doute dans les prochaines semaines. Avant cela, il y a eu cette relaxe aujourd'hui et je voudrais évidemment entendre votre réaction. Comment vous l'avez accueillie, cette relaxe? Vous avez été surpris, déçu, choqué?
Je l'ai pris le plus rationnellement possible et avec le plus de hauteur possible. Forcément, il y a une déception qui est là et on espérait être entendu. Après, si on réfléchit un petit peu et qu'on essaye de prendre un peu de hauteur, on a quand même une relaxe alors qu'on avait eu une lecture en première instance qui était totalement différente. Et on avait eu aussi la condamnation d'André Faure il y a quelques mois, un évêque.
Mais alors, comment vous l'expliquez, pardonnez-moi, mais comment vous l'expliquez cette réponse juridique aujourd'hui en contradiction effectivement avec la précédente?
Eh ben, on l'explique par un flou en fait de la justice sur l'application du code pénal et en fait cette loi a très peu été utilisée et très peu d'expertises sont venues la conforter et donc on a des juges et des tribunaux qui ont des lectures très différentes et donc c'est à ça que sert la Cour de cassation notamment, c'est que en fait, il y a deux façons de faire évoluer la loi. C'est soit on a des projets de loi qu'on fait valider par le législateur, soit la Cour de cassation prend des décisions fort d'une expertise qui font après jurisprudence.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est à la limite, vous passez outre la justice. Aujourd'hui, c'est une politique gouvernementale qui ne remplit pas son devoir ?
Oui, bah le fait est que notre société aujourd'hui n'est pas du tout à la hauteur de l'ampleur de la pandémie que représentent les violences sexuelles dans notre pays. Et on voit bien que ça occupe un espace médiatique dans tout l'Occident et qu'il y a des mouvements qui se créent, notamment dans l'Église, mais pas que dans l'Église. On a suffisamment d'affaires en tête pour on prend la mesure soudainement des conséquences qui durent des décennies, de la programmation de la violence que ça représente dans notre société, de l'impact en termes de santé publique, et que nos institutions, je pense à l'Église, je pense à la justice, je pense aux législateurs, je pense au gouvernement, qui ne sont pas du tout à la hauteur de la réalité de ce fléau, et on baigne dans un amateurisme à voter des allongements des délais de prescription au doigt mouillé, et on réécrit des textes de loi comme l'article 434-3 du Code pénal.
Bon.
Sur la non-dénonciation, et que la réécriture qu'a fait le législateur de ce texte de loi n'est ni fait ni à faire.
Pour autant, vous allez donner des suites judiciaires à cette relaxe, parce que vous allez effectivement en cours de cassation, hein, je crois que c'est acté. Qu'est-ce que vous vous dites au fond aujourd'hui, vous personnellement, ou vous, avec un certain nombre de membres de l'association, vous vous dites aujourd'hui qu'on peut encore croire en la justice, en l'Église et au-delà au pape François?
Qu'on peut faire grandir le discernement et la conscience et induire des réformes en apportant de l'expertise. Et je crois que le constat qu'on fait, c'est que notre société n'est pas à la hauteur, en fait, n'est pas à la hauteur de la réalité de ce qui s'y passe. Et Adrien Taquet le dit très bien quand il vient sur les plateaux télé en nous disant, oui, vous savez, c'est 20 000 plaintes et très peu aboutissent, et on est sans doute 10 fois en dessous de la réalité. Voilà, c'est une faillite de notre société qui, aujourd'hui, en 2020, à mon sens, n'est plus acceptable. On doit être bien au-dessus de ça, et ça n'évoluera qu'au travers des actions, je pense, comme la nôtre. Et donc, on joue notre petit rôle autant que faire se peut pour faire grandir toutes ces institutions et augmenter l'expertise.
Sur le plan, un mot sur le plan moral, François Deveau. Ce soir, le cardinal Barbarin a reformulé des excuses. En tout cas, il a dit que ses pensées allaient toujours vers les victimes. Ça a fait sens pour vous ou c'est de la communication ?
Je ne veux pas porter un jugement sur un examen de conscience qui ne concerne que lui. Je lui souhaite sincèrement, et je pense qu'effectivement il a fait un bout de chemin quand même après tout ce qu'il a traversé ces dernières années. Je crois que c'est une démarche personnelle et qui est importante pour lui.
Vous savez qu'il peut retrouver sa place de Prima de Gaulle, au fond, puisqu'il est blanchi désormais.
Ah mais oui, mais il aurait été condamné qu'il aurait pu la garder tout autant. Hein. Je veux dire, la condamnation de la justice républicaine ne conditionne pas le poste qu'il va occuper demain. Donc c'est en ça qu'il y a une distinction qui se fait. Et effectivement, la législation et le code pénal et l'application du code pénal vient se percuter avec la morale. Et c'est tout ça qu'on vient mettre en perspective et interroger. Et ça pose effectivement beaucoup de questions. Et il faut répondre à ces questions. Pour que demain, on ait une société qui soit plus mature et plus éveillée sur tout ça.
Merci beaucoup François Deveau d'avoir réagi en tout cas ce soir au micro d'Europe 1. Merci beaucoup.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres et les grandes voix. Le débat, évidemment, va s'installer jusqu'à 19h. Les grandes voix sont déjà là, presque au complet, avec les municipales qu'on va regarder de près. Emmanuel Macron qui essaye de remettre de l'ordre dans ses troupes. Il tape du poing sur la table. Il rappelle à l'ordre ses ministres. Ça vous a inspiré assurément, les grandes voix, et vous, les auditeurs aussi. On vous attend au 39-21.
Vous pouvez également réagir et interpeller les grandes voix sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir, jusqu'à 20h. Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Le rapatriement des Français de Wuhan vers les Bouches-du-Rhône, destination confirmée ce soir. Un avion militaire médicalisé doit ramener 200 Français dans les heures qui viennent. Ils y seront placés en quarantaine. Aucun ne présente de symptômes du coronavirus à ce stade. Et par ailleurs, Air France suspend à son tour toutes ses liaisons aériennes avec la Chine. Le cardinal Barbarin, relaxé, veut toujours démissionner. Il va retourner demander au pape François de mettre fin à ses fonctions. Édouard Philippe dit avoir bon espoir de dégager un compromis sur le financement de la réforme des retraites. Discussion ouverte aujourd'hui avec les partenaires sociaux. La France condamnée pour la saturation de ses prisons. La Cour européenne des droits de l'homme appelle à des mesures pour améliorer les conditions de détention. Les députés européens veulent un chargeur de téléphone universel, un seul pour toutes les marques. Ils ont adopté une résolution transmise à la Commission européenne. Le journal France Antilles ne paraîtra plus. Liquidation judiciaire prononcée. C'était le seul quotidien régional en Martinique, Guadeloupe et Guyane. 235 salariés sont concernés. Puis les huitièmes de finale de la Coupe de France de foot, Nice-Lyon, c'est l'affiche ce soir à 20h55.
Merci Sébastien, l'info revient à 19h précisément avec vous. Anissa, un temps gris et humide pour demain, voilà. On est fixé.
Oui, c'est bien résumé, effectivement Nathalie. Gris et humide avec des nuages sur quasiment toute la France. Alors sachez que demain, sur la Bretagne, sur la Normandie, une grande partie de l'Est, la vallée du Rhône, le Pays Basque, là vous aurez de la pluie demain au lever du jour. Ces pluies, elles vont se décaler. Alors ce sont des pluies très locales et très légères, des petites averses. C'est surtout les nuages qui l'emportent demain. Le temps restera sec dans le sud, sur le pourtour méditerranéen, la Corse, les Alpes et les Pyrénées. Là, un temps sec avec même dans l'après-midi de belles éclaircies. Attention aussi sur les côtes bretonnes, les côtes de la Manche et les côtes de la mer du Nord. Demain, c'est le vent de sud-sud-ouest qui souffle jusqu'à 60 km/h. Les températures, elles sont très douces pour la saison. 4 à 11 degrés demain matin en moyenne. Nous aurons 11 degrés au lever du jour à Biarritz. Dans l'après-midi, 12 à 19. 15 degrés pour Paris, 17 à Marseille, 19 à Perpignan.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Nathalie Lévy ce soir autour de vous pour débattre de l'actualité. Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Alors les grandes voix, on regarde de plus en plus près parce que l'échéance se rapproche, on est à 6 semaines du scrutin et donc on va décrypter ce qui va se passer pour ces élections municipales 2020. En tout cas la bataille qu'Emmanuel Macron a essayé de régler, cette guerre de tranchées, ces ovnis là, ces espèces de participants qui veulent en être, il a fallu trancher dans le vif et c'est fait, des décisions fortes ont été prises, table rase à Biarritz, Villani exclu, on attend vendredi Édouard Philippe, évidemment, il était temps. Non, il était temps de taper du poing sur la table, Mickaël Darmon, Charles Villeneuve, Catherine Ney.
Mais il a mis du temps. Il était temps.
Il était temps.
Mais
il
a mis du temps, sincèrement. Et c'est quand même étonnant que ce soit le président de la République qui doive trancher, ce qui montre le vide du leadership de la République en marche. parce qu'il y a des gens qui dirigent quand même ce parti, de toute façon. Ils ont pas mal d'arbitrages. Ces arbitrages, ils tardent à les faire, parce qu'il n'y a pas que les deux ministres. Bon, il a fallu que ce soit le président, mais ça aurait pu être quand même le Premier ministre, puisque c'était des membres du gouvernement. Or, le Premier ministre, lui aussi, de toute façon, n'a pas tranché, donc il a fallu remonter au président. On l'a vu pour Villani commencer à tourner. Là, de toute façon, effectivement, la décision a été prise et les deux sont rentrés au bercail.
Voilà, on est rentré dans le rang. On est rentré dans le rang pour l'instant, Michaël Darmon.
Moi, je me souviens d'une réponse un peu lapidaire et étrange que m'a faite le président de la République lors de ses vœux, quand je lui ai posé la question s'il allait ramener la paix à Biarritz, s'il s'est retourné en me disant « je ne m'occupe pas des municipales
ouais. ».
Voilà.
Ça, c'était il y a deux semaines.
Dont acte. Évidemment, il s'occupe des municipales. Évidemment, nous sommes dans la Ve République. Tout se décide dans un seul bureau. Les choses sont simples.
Et c'est pas nouveau.
Et c'est pas nouveau, puisque on est en Ve République. Tout se décide dans le bureau de l'Élysée.
Mais comment on a pu laisser s'installer pendant tant de semaines autant de dissidences ? C'est quand même une aberration, Catherine Ney.
Autant de dissidences, c'était surtout le cas de Biarritz, qui était absolument...
Villani, ça fait quand même...
À partir du moment où le président recevait Villani à l'Élysée et que l'autre, en sortant de l'Élysée, lui faisait un bras d'honneur, on ne voit pas comment il ne pouvait pas ne pas être exclu d'En Marche. Donc, il fallait un acte d'autorité. Voilà. Et puis, il y avait Biarritz, c'était quand même extraordinaire que deux ministres...
Alors, on rappelle, Jean-Baptiste Lemoyne et Didier Guillaume,
sur la liste du maire
pour Didier Guillaume,
Modem,
tourisme pour Jean-Baptiste
Lemoyne. Qui était en troisième position, je crois, qui n'était pas tête de liste. Et le ministre de l'Agriculture, qui, lui, était tête de liste, mais... Quand on est tête de liste, c'est quand même pour être élu maire et pour quitter le gouvernement. Donc, le projet de société de M. Guillaume, c'était de ne pas rester au gouvernement. Bon, de même, donc, là, le président a tranché, il n'y a pas de candidat, c'est un jugement de Salomon, tout le monde pareil, exit la candidature, ils se sont inclinés. Et M. Guillaume va rester ministre de l'Agriculture. Parce qu'on estime, en haut lieu, évidemment, à l'Élysée, qu'on ne change pas de ministre de l'Agriculture si proche du salon de l'agriculture.
Exactement.
Bon, ben voilà, on en trouvera peut-être après. Oui. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est le cas de Gérald Darmanin, qui, lui, est candidat pour partir et qui décide de s'en aller.
Exactement.
Et ça, moi, je connais dans l'histoire récente un seul cas où une femme avait décidé de quitter le gouvernement pour être candidate à Lille et avait dit à Lionel Jospin, le Premier ministre, je m'en vais... ça m'intéresse plus d'être ministre. Et je trouve ça assez culotté. D'ailleurs, Darmanin a dit mais non.
Assez irrévérencieux, iriez-vous jusqu'à dire
assez,
que c'est une
non,
manière...
Non, mais ça veut dire qu'il juge que... Eh bien voilà, peut-être qu'il n'a pas le poste qu'il ambitionnait d'avoir, l'intérieur pour ne pas le nommer, peut-être qu'il s'ennuie, peut-être qu'il rêve d'un autre... Peut-être qu'il ne croit plus en Macron pour la présidentielle, j'en sais rien. Mais lui, il dit, mais vous savez, je ne crois pas que si je suis maire de Tourcoing, demain je m'ennuierai. Enfin,
mais
il avait dit
Emmanuel Macron, il faut que mes ministres aillent sur le terrain, il faut qu'ils soient candidats.
Oui, c'est le paradoxe, effectivement.
Il fallait que
ceux qui soient hors sol jusqu'à présent puissent pouvoir s'ancrer. Ça n'est pas vraiment le cas. On voit bien qu'à Paris, beaucoup de ministres sont envoyés sur les listes de Benjamin Griveaux pour tenter soit de le conforter, soit pour essayer effectivement d'avoir une forme d'ancrage. On se retrouve là aussi dans une épure connue. On n'arrête pas de nous dire, et en particulier même le président de la République, lors de ses voeux, que les élections municipales sont des élections uniquement locales, qui ne va pas automatiquement tirer des sanctions nationales. Mais en réalité, on voit bien comment ça préoccupe effectivement le sommet de l'exécutif et comment, bien sûr, tout le monde constatera au niveau national les rapports de force qui sortiront du scrutin municipal. Et on verra dans quelle mesure on assistera à un renouveau d'une forme de clivage droite-gauche.
Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est les 15 et 22 février, ces élections municipales qui s'annoncent compliquées pour Emmanuel Macron. La vision de Charles Villeneuve juste après ça.
Europe 1, il est 18h30.
J'ai dit quoi ? Février ?
Bah oui, mais vous voyez.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec, comme chaque jour jusqu'à 19h, le débat des grandes voix ce soir autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Michaël Darmon.
Alors c'est bisbille évidemment dans ces élections municipales qui arrivent à grands pas 15 et 22 mars, on a tous compris, bien entendu, Charles Villeneuve. Charles Villeneuve, la fin du suspense, on n'y est pas encore. Peut-être demain soir avec Édouard Philippe, va-t-on être encore chamboulé d'une certaine manière ?
Moi, je ne crois pas que le Premier ministre veuille troquer son poste de Premier ministre contre la mairie du Havre. Je crois que, simplement, c'est vrai qu'il est très attaché, il le dit, le redit, le répète en permanence, ce qui est vrai, certainement vrai. Il sait qu'il est attaché à sa ville, qu'il a gérée, d'ailleurs, très bien. Mais il ira certainement aider justement la liste, celle qui lui a succédé, en tout cas le maire, comme premier adjoint peut-être, parce qu'on on se fait pas réélire maire pour finalement troquer son poste de premier ministre, je crois pas. Ça c'est sûr.
Alors bon. Pourquoi tout ce bruit ?
Ben, tout ce bruit, parce tout que moi, bruit. Moi j'estime, ouais. si vous voulez, que le ouais. vrai problème, ouais, il ne s'attache pas seulement à deux ministres qui se disputent la pièce, si vous voulez, à Biarritz. Le problème de La République En Marche, il est bien plus vaste bien que sûr. Ça sur le plan municipal. On a essayé d'injecter dans des listes un certain nombre de représentants de La République En Marche, et ça marche très mal, en réalité, parce que les élections municipales n'ont rien à voir avec toutes les élections. C'est pas Catherine qui me dira le contraire, ni Michaël, de toute façon, ça n'a rien à voir. Ça, on voit, il ne faut pas trouver une signification oui. obligatoire oui. par rapport au présidentiel ou au futur présidentiel, oui. encore que, on verra bien, encore que, parce que là, il y a d'autres exemples. À Lyon, oui. Ça ne marche pas très bien oui. entre Kimfeld, de toute façon, de La République En Marche, et le maire sortant, l'ancien ministre de l'Intérieur, Collomb. Gérard. Ça ne marche pas très bien non plus à Bordeaux, où le successeur, le lieutenant, d'Alain Juppé a contre lui un candidat de La République En Marche, alors qu'il est adoubé, le lieutenant d'Alain Juppé, par le chef de l'État. De toute façon, le chef de l'État ne voit pas d'un mauvais œil que le successeur de Juppé soit un homme de Juppé. Bon, et ça, y a aussi sa cloche dans pas mal de
trucs. Ça cloche quand il n'y a pas d'ancrage.
Oui,
ça cloche quand il n'y a pas d'ancrage
territorial.
Mais il n'y en a pas par définition.
Mais il n'y en a pas d'ancrage par définition, ce parti a 4 ans. Donc, par définition, il va même pas perdre les villes, il n'en a aucune. Donc, de ce point de vue-là, l'enjeu, et c'est pour cela que ces municipales, au fond, agissent comme un révélateur des problèmes de la méthode du macronisme, qui parle en même temps, va à droite, va à gauche, fait des alliances parfois incohérentes, attrape par exemple La République En Marche, oui. soutient le maire sortant qui a 83 ans face au Modem, qui soutient la liste de quelqu'un de plus jeune. Dans d'autres villes, il y a aussi des incohérences inverses. Donc la réalité, c'est que ces élections municipales font ressurgir les problématiques de méthode. Maintenant, en termes d'ancrage, ils ne peuvent espérer que faire entrer des conseillers municipaux pour préparer les élections sénatoriales. Voilà. Ce parti a 4 ans.
Le problème, il est là.
16 des 60 plus grandes villes avec des candidats La République En Marche dissidents, Catherine. C'est effectivement un chiffre sur lequel on peut s'interroger. Avec aussi cette absence d'ancrage, il a plié l'affaire, Emmanuel Macron. Il sait très bien que ces élections, de toute façon, elles sont ingagnable.
Bah, c'est ce que dit Michael. Ouais. Il n'y a pas d'ancrage et il n'y a pas d'autorité dans ce parti. Donc personne n'écoute personne et tout le monde tente sa chance. Dans le fond, chaque petit En Marche qui est sur le terrain dit « Moi, je fais comme le patron qui est arrivé et qui a tout cassé. Je peux peut-être réussir la même démarche avec... voilà. Moi, je suis... je tue l'ancien monde. Oh, » C'est ça entendu, que localement, chacun veut faire. Avec là, on verra bien si c'est... Si c'est des résultats. Donc, moi, je pense que dans oui. les municipales, je pense que le côté, les électeurs privilégient toujours ceux qui sont là depuis longtemps.
Ils
sont là.
Et puis, ils agissent en contre les personnes
qui sont en place. Oui, mais comment on n'est pas sûr du tout ? On n'est pas sûr du tout. Alors, on maquille les brèmes un peu, notamment la circulaire Castaner. On décide qu'on ne va pas compter les étiquettes politiques sur les villes de moins de 9000 habitants. Si vous voulez, bon, je sais qu'il y a un recours. On n'en connaît pas encore le résultat. Il y a pas mal de recours qui ont été introduits, on les verra. Mais c'est typiquement, si vous voulez, le maquillage des brèmes, ouais. ce qu'on appelle le maquiller les brèmes, pour essayer de toute façon d'adoucir le résultat qui ne sera pas un bon résultat.
D'arrondir, exactement.
Non, je crois qu'on peut citer aussi le cas du Modem, François Bayrou qui soutient Benjamin Griveaux, alors qu'il n'arrêtait de dire qu'il n'y croyait pas. Et Madame de Sarnez qui va être sur la liste de Patrick Lecoq, qui lui est candidat républicain. Vous voyez. Alors, donc c'est là sur le modèle.
Ces alliances, c'est normal, Catherine. Les alliances qui commencent à se nouer, qui prennent forme à Paris.
Ce sont des alliances un peu incohérentes.
Oui, mais
Modem soutient Benjamin Griveaux et les candidats du Modem vont soutenir les adversaires de Benjamin Griveaux. Donc,
c'est quand même la première lieutenante de François Bayrou.
D'ailleurs, quand François Bayrou va rencontrer le président de la République, il est toujours accompagné de Madame de Sarnez. Hein. Il ne vient jamais seul.
Donc, de ce point de vue-là, c'est une incohérence.
Un petit mot d'Yves qui nous appelle de Troyes. Bonsoir Yves.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci, merci de prendre mon appel. Je voulais simplement intervenir sur le problème des ministres, en particulier candidats à ces municipales. Alors j'ai peut-être un point de vue minoritaire, voire iconoclaste, mais je considère que les Français sont en parfaite contradiction. En effet, à la fois, ils veulent des élus proches de la réalité du terrain, au cœur de leurs problèmes, et ils leur refusent en fait ce lien en les enfermant dans le pouvoir central. L'interdiction du cumul des mandats est, à mon sens, une véritable ineptie. Ben, pourquoi ? Parce que, en fait, ces élus, et on le ressent très bien aujourd'hui, avec l'amateurisme avéré d'un certain nombre de nouveaux ministres et de parlementaires. Ouais. Je pense, pour ma part, que la politique est un métier, n'en déplaise à certains beaux esprits. Cela s'apprend, se cultive dans les territoires. Les ministres disposent de cabinets et de conseillers qui peuvent parfaitement entretenir des liens étroits avec les équipes municipales, notamment dans les grandes et les moyennes villes. Alors, je pense que là, on marche sur la tête. Un grand ministre doit savoir sentir l'air aussi bien de la province que de Paris, tout à la fois.
Ah, la province aussi.
C'est le meilleur moyen de sentir vraiment la France.
Merci beaucoup, Yves, de nous avoir appelé ce soir de Troyes. On a été attentifs,
En tout cas, moi, j'approuve parfaitement sa démonstration
qui était très étayée. Merci beaucoup à Yves. Les grandes voix restent ensemble. Dans un instant, on revient sur cette décision de justice, cette relaxe pour le cardinal Barbarin. J'attends votre lecture, bien sûr.
Il est 18h48 sur Europe 1. Le débat des grandes voix sur Europe 1 dans votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et autour de vous ce soir Nathalie, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Michaël Darmon.
Avec la relaxe pour le cardinal Barbarin aujourd'hui même et ses quelques mots en conférence de presse dans la foulée, je vais aller me rendre aux côtés du pape François et je vais lui présenter ma démission.
Il a raison.
Oui, il va y retourner, Charles Villeneuve. Il va y retourner. Mais il avait déjà présenté sa démission.
C'est la troisième fois.
Troisième fois.
En 2016, déjà, lorsque l'affaire avait éclaté, il avait été remettre. Et le pape lui avait dit écoutez, en quoi vous êtes coupable ? Et puis, quand il y est revenu en mars dernier, lorsqu'il était. Il était condamné à 6 mois avec sursis, bien sûr, pour non-dénonciation
d'actes d'agression
sexuelle. Comme il faisait appel, le pape lui a dit attendons l'appel. Alors maintenant, l'appel, il est relaxé. Est-ce que le pape va lui dire vous restez à Lyon ? Moi, je ne pense pas qu'il puisse rester à Lyon. D'ailleurs, la conférence des évêques de France, qui a pris acte de la décision, assure le prélat de sa communion fraternelle dans cette phase nouvelle de sa vie qui s'ouvre au service du Christ de l'Église. Autrement, c'est dire adios,
Attendez, c'est un minimum, non, Catherine ?
C'est plus qu'un minimum.
Je trouve que même, ils y vont mollo, non ?
Plus que mollo.
La décision de justice ? Moi, je trouve que la décision de justice, étant donné ce qui s'est passé, c'est le pire moyen de convaincre tous ceux qui se sont détournés de l'Église par rapport à ce qui s'est passé. C'est même les conforter dans leur volonté de quitter l'Église. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'un cardinal... c'est un peu comme, si vous voulez, un recteur d'académie ou un préfet. Il n'a pas simplement l'administration spirituelle des fidèles, il a aussi l'administration des hommes.
Et vous avez entendu peut-être François Deveau, qui était président de la Parole Libérée, victime du père Prénat, le père défroqué, qui me disait tout à l'heure « Notre société n'est pas à la hauteur du fléau des violences sexuelles. Ça dépasse le stade de la justice, ça dépasse le stade de l'Église. Pour lui, il y a une absence de réponse de la société. Est-ce qu'effectivement, on n'est pas là ?»
Est-ce que Monseigneur Barbarin n'incarne pas lui seul l'Église, qui ne dénonçait pas, mais tout de même depuis 2010, quand des victimes étaient venues lui raconter les sévices du père Prénat, il n'avait rien dit parce que il les avait écoutés, mais pas dénoncé les agissements à la justice parce que il avait reçu du Vatican d'ailleurs une lettre qui lui conseillait d'éviter le scandale. Vous voyez, et quant à Lourdes, en mars 2016, il était interrogé sur ses affaires. Il avait dit qu'il n'avait pas couvert tout ça, mais il avait dit Dieu. Grâce à Dieu, la majorité des faits sont prescrits. Ce grâce à Dieu, d'ailleurs, François Ozon en a fait un film. Vous voyez, grâce à Dieu.
Mais
quand même, je veux dire, cette phrase, moi, m'avait beaucoup marquée, parce que moi, ce qui m'avait beaucoup choquée, c'est qu'on a senti chez cet homme, quand il s'est exprimé, de la dureté, une absence d'empathie pour les victimes, et quand même Dieu qui vous parle d'amour, moi, je pense qu'il n'écoutait pas le message du Christ.
Il faut dire les faits. Il a laissé pendant 5 ans au contact des enfants le même père Prénat, après l'avoir entendu. Donc il savait pertinemment ce qu'il avait commis comme acte, qui relevait, si vous voulez, du droit pénal, criminel. Et évidemment...
Mais il était au courant, d'ailleurs, il l'a dit.
La justice, quand la justice séculière n'est pas saisie, la justice de l'Église peut l'être.
Bien sûr.
Et c'est le rôle et c'est le devoir d'un cardinal, justement, de le faire.
Michaël Darmon.
Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que c'est vrai qu'on vit des séismes multiples et qui sont en train tous de nous faire prendre conscience à quel point la société n'est pas capable de protéger les enfants, les femmes, quand il y a des agressions face à la puissance des institutions. Vous voyez, là, on traite de l'institution du silence, de la résistance de l'institution de l'Église.
L'omerta,
mais,
oui.
Mais l'omerta dans l'éducation nationale, on la connaît aussi. Dans le monde sportif, on est en train de la découvrir encore avec le témoignage de la patineuse Sarah Abitbol. Et donc, en réalité, on est en train de vivre en ce moment une grande confrontation, une grande rupture entre la société, ses institutions. Et ça alimente... je pense, la défiance, la rupture et tout ce que l'on est en train de vivre.
C'est ça le monde qui change. On y assiste alors.
Et de ce point de vue-là, il change plutôt dangereusement parce que la fracture s'accentue.
Il n'y a pas de bonne réponse.
Il n'y a pas de bonne réponse. Oui, et c'est comme ça aussi qu'après, on donne au fond confiance aux extrêmes.
Non, mais la question que posait tout à l'heure M. Levaux, il allait plus loin. C'est-à-dire là, on fait de la morale. Mais. Simplement, les juges sont obligés de se baser sur le droit écrit. Est-ce que le droit est au niveau, justement, de ces séismes que tu dénonces? Je ne le pense pas. Il n'est pas adapté. Et c'est aussi cette réflexion-là que doivent avoir les hommes de droit, ceux qui régissent, de toute façon, le code pénal, le code civil, le code en général.
Parce que la société change, il faut aussi que le droit s'adapte.
Voilà.
Merci beaucoup les grandes voix, en tout cas d'être venues réagir à ces sujets qui montrent malgré tout quand même l'évolution, et vous l'avez rappelé Michaël Darmon, avec ce que ça comporte aussi de manquements, l'évolution, le monde qui change. Les grandes voix, merci à vous. On continue, nous, en direct jusqu'à 20h.
Europe 1.
Et la suite du programme, Nathalie Lévy.
C'est le journal de 19h de Sébastien Krebs avec le rapatriement des premiers Français. Ils vont arriver dans les Bouches-du-Rhône. On vous raconte cela.
Vous écoutez Europe 1, c'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy avec le programme de la prochaine heure, Nathalie.
19h10, la cacophonie au sein d'En Marche au sujet des municipales. La majorité peut-elle sauver les meubles? Aurélie Herbemont posera la question à Sylvain Maillard, député porte-parole du groupe En Marche à l'Assemblée. 19h20, demain le Brexit, avant-dernier épisode, l'histoire d'une désunion européenne racontée en musique. Et puis à 19h30, avec moi dans ce studio, deux invités exceptionnels, l'explorateur Bertrand Piccard et la patronne d'Air France, Anne Rigail. Ensemble, ils imaginent l'avion de demain, ils vont nous l'expliquer. Sans oublier l'actualité, puisque Air France a suspendu, ça y est, ses vols à destination de la Chine, et ce jusqu'au 9 février en raison du coronavirus. Détails, explications à suivre. Bertrand Piccard et Anne Rigail avec moi jusqu'à 20h dans le studio d'Europe 1.
Bertrand Piccard et Anne Rigail qui répondent aussi à toutes vos questions. Si vous avez envie de les interroger sur ce milieu de l'aéronautique, n'hésitez pas, ça se passe dès maintenant au 39-21. On lit également vos messages, vos questions, vos témoignages sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
C'est une réaction de mécontentement. Pourquoi ? Parce que la moindre des choses, à partir du moment où la décision est prise, c'est de m'avertir.
Le coup de gueule du maire de Carry-le-Rouet près de Marseille. Il affirme que les Français rapatriés de Chine seront placés en quarantaine sur sa commune.
Un avion militaire français doit décoller dans les heures qui viennent à destination des Bouches-du-Rhône.
Le cardinal Barbarin relaxé en appel face aux accusations des victimes du père Prénat. Il annonce ce soir qu'il va retourner présenter sa démission au pape.
Dans ce journal également, des primes pour les agents non grévistes de la SNCF.
Et l'image du jour, Emmanuel Macron au salon de la bande dessinée qui pose avec une caricature évoquant les violences policières.
Anissa, le ciel avec vous.
Très gris demain avec des averses un petit peu partout sur la France, notamment de l'est jusqu'au sud-ouest. Il va faire beau seulement au sud et les températures sont en hausse. Demain, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Ils sont 200 Français à embarquer dans un premier avion militaire arrivé aujourd'hui à Wuhan, épicentre chinois de l'épidémie de coronavirus. Aucun ne présente de symptômes à ce stade, mais tous seront placés en quarantaine à leur retour sur le sol français. On sait maintenant que l'avion va atterrir demain dans les Bouches-du-Rhône. Et le maire de Carry-le-Rouet affirme que les passagers seront installés sur sa commune, mais il n'a pas été averti.
C'est une réaction de mécontentement. Pourquoi ? Parce que la moindre des choses, à partir du moment où la décision est prise, c'est de m'avertir. Un maire, c'est quand même le responsable de la ville. Et ensuite, j'ai depuis des années une manifestation qui dure sur 4 dimanches, qui s'appelle les Oursinades de Carry-le-Rouet, où j'ai des milliers de personnes qui viennent. Mais là, 36 heures avant, on me met ça sur le dos, là, je ne peux plus annuler. Là. Et j'ai déjà des réactions sur les réseaux sociaux, des gens qui disent ben, « on n'ira pas ».
On vous met devant le fait accompli ?
Tout à fait. La moindre des choses, c'est de faire le tour des villes, Carry-le-Rouet. Pourquoi ? Parce que le site de vacanciel est un site qui peut accueillir 500 personnes, parce que c'était fermé et que c'est très facilement sécurisé, et que donc ça a été la facilité pour eux. Je peux comprendre la situation de ces Français, je peux comprendre que c'est la moindre des choses de les accueillir, mais à mon avis, la moindre des choses, déjà, c'est de la ville qui a été choisie, au moins on puisse prévenir les autorités de cette ville, qu'il va se passer ça. Quoi.
Le maire de Carry-le-Rouet, Jean Montagnac, joint pour Europe 1 par Nathalie Chevance.
Et ce soir, l'Organisation mondiale de la santé tient une nouvelle réunion sur cette crise du coronavirus. Air France a aussi annoncé la suspension de tous ses vols vers la Chine jusqu'au 9 février. C'est une demande d'ailleurs des personnels navigants. Anne Rigal, directrice générale d'Air France, dans ce studio, dans 25 minutes. Maintenant.
C'est l'autre grand titre ce soir. Le cardinal Barbarin jugé innocent, relaxé en appel des accusations des victimes du père Prénat.
Elle l'accusait de ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles du père Prénat. Vous avez entendu un peu plus tôt la réaction de François Deveau, le fondateur de la Parole libérée. Il va se pourvoir en cassation.
En attendant, le cardinal Barbarin annonce qu'il va retourner présenter sa démission au pape François. Écoutez son avocat, maître Jean-Félix Luciani.
Il va effectivement remettre sa mission au pape. Je pense qu'il a bon espoir que cette fois-ci, le processus judiciaire étant pour l'essentiel achevé, le pape accepte. Je crois que Mgr Barbarin, vous le savez, a depuis longtemps l'envie de retrouver un peu de paix. C'est l'occasion.
Il en a marre. C'était trop pesant, trop lourd.
Je crois que chacun peut le comprendre. Si vous voulez, ça fait 4 ans qu'il subit quand même des attaques qui auraient été insupportables pour beaucoup d'entre nous. Il est resté jusqu'en première instance par respect pour la justice et par respect pour les victimes. Il voulait faire face et il voulait être présent à l'audience. Il voulait finalement répondre lui de ce qu'on lui reprochait et peut-être de ce qu'on reprochait à l'Église à travers lui. Aujourd'hui, l'échéance est passée et vous avez saisi que quel qu'ait été le résultat de cette échéance, il aurait demandé à s'en aller. Voilà, il souhaite à ce diocèse qu'il aime tant la paix et il considère qu'en partant, en s'éloignant désormais, eh bien, ce diocèse pourra bâtir un nouveau chapitre de son histoire.
Jean-Félix Luciani, l'avocat du cardinal Barbarin, au micro de Jean-Luc Bougeon.
Édouard Philippe dit avoir bon espoir de dégager un compromis sur le financement de la réforme des retraites. Discussion ouverte aujourd'hui avec les partenaires sociaux sur le fameux âge pivot.
Les syndicats ont 3 mois pour trouver une solution permettant de remettre les comptes à l'équilibre en 2027 dans le nouveau système par points.
Et à la SNCF, on apprend que les non-grévistes ont été récompensé. Bonsoir Emmanuel Dutheil.
Bonsoir.
Ce sont bien des primes qui ont été versées.
Oui, il est bien normal de récompenser ceux qui ont fait plus que d'habitude, assure la direction de la SNCF. On parle de cadres ou de salariés qui ont enfilé par exemple des gilets rouges après une journée de travail pour aller renseigner les clients en gare. On parle de salariés qui ont travaillé encore plus que d'habitude pour entretenir les trains ou de personnes qui ont repris les commandes de ces trains pour tenter d'acheminer le plus de clients possible. De sources syndicales, on estime que ces primes vont de 300 à 1 500 euros, des primes qui passent mal auprès de certains syndicats contestataires qui estiment que ça récompense d'une certaine manière les casseurs de grève. La SNCF s'en défend, elle parle de primes accordées au cas par cas pour récompenser tel ou tel collaborateur et elle parle de primes qui sont plutôt de quelques centaines d'euros. Elle prévoit aussi quelques moments, pardonnez-moi l'expression, mais plus festifs, cette fois pour remercier au moins verbalement tous ceux qui ont essayé de faire tourner l'entreprise pendant ces semaines compliquées.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe. Et puis pour ce qui concerne les transports parisiens, les abonnés au pass Navigo pourront se faire rembourser. Le site dédié à ce remboursement sera pleinement fonctionnel à partir de demain. Il ouvrira à 14h. Il faudra aller sur mondédommagementnavigo.com. Tout cela tout attaché et sans accent pour déposer votre demande.
Et c'est l'image du jour. Emmanuel Macron au salon de la BD d'Angoulême. Il a posé avec un dessin qui fait très largement parler.
Une caricature sur un t-shirt qui évoque clairement les cas de violence policière avec ce jeu de mots LBD 2020, référence au lanceur de balles de défense à l'origine de blessures dans les manifestations. Ce dessin, c'est Jules qui en est l'auteur. et qui s'est faufilé pour l'offrir au président.
Ce t-shirt-là, figurez-vous que, en fait, je me le suis fait confisquer en arrivant sur la route du déjeuner parce qu'il y avait des barrages de police, alors ils fouillaient les sacs. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce t-shirt ? Ah non, confisqué, c'est un objet séditieux, vous ne pouvez pas donner ça. Et tout, je dis, mais vous savez, c'est le cadeau pour le président de la République. Ah non, hors de question. Alors, ils ont eu encore plus peur, il a fallu que je fasse des pieds et des mains pour le récupérer. Et donc, j'ai parlé de cette image détournée, ça a un peu fait rigoler tout le monde, y compris Macron, et je lui ai donné ce t-shirt, et il a regardé comme ça, il a dit « Ah oui, machin, c'est pas ma taille. » Mais et après, je lui ai dit « Mais si vous voulez, on fait une photo. » Il a dit « Oui, d'accord. » J'ai dit « Vous êtes sûr ? » « Oui, d'accord, pas de problème. » Et donc, on a fait cette photo qui est absolument insolite parce que tout le monde est comme ça, tout sourire. Moi, parce que j'ai un peu conscience du caractère un peu lunaire de tout ça. Et lui, je sais pas, c'est... Ça fait partie du mystère du personnage, sans doute.
Voilà, témoignage recueilli par Mathieu Charrier. Réponse d'Emmanuel Macron aux réactions que cela peut susciter. Je suis là pour défendre la créativité, la liberté d'expression, y compris l'insolence et y compris la création d'artistes qui disent des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord.
Ça fait partie du mystère du personnage. Hein. Voilà, c'était bien dit, tout y était. Un mot des sports, avec d'abord la liste du 15 de France qui affrontera Sébastien l'Angleterre dimanche au Stade de France.
L'entrée des Bleus dans le tournoi des 6 nations pour le nouveau sélectionneur Fabien Galthié, qui promet un 15 de France ambitieux. Il y a seulement 12 survivants du Mondial au Japon et deux jeunes vont connaître leur première sélection, l'arrière Anthony Boutier et le pilier Mohamed Aouas. Et puis ce soir, c'est du foot au programme 20h55, 8e de finale de la Coupe de France, Nice-Lyon.
Merci beaucoup Sébastien, 19h30, nouveau point sur l'info avec vous. Anissa, une grande douceur pour demain.
Oui, effectivement Nathalie, c'est vrai que demain encore les températures continuent leur hausse et elles seront bien demain au-dessus des moyennes de saison comme aujourd'hui d'ailleurs. 4 à 11 degrés demain matin en moyenne, 8 à Saint-Étienne le matin, 8 à Lille, à Clermont-Ferrand, 11 degrés à Paris, 12 pour Bordeaux et dans l'après-midi il va faire très doux. Écoutez bien, 12 degrés pour Millau, 14 à Caen, Paris et Nantes, 15 degrés pour Strasbourg, Lyon et Poitiers, 17 degrés demain après-midi à Marseille et Carcassonne et jusqu'à 19 degrés à Perpignan. Alors en ce qui concerne le ciel, c'est beaucoup moins agréable que pour les températures. Hein. Le ciel, lui, il est très couvert demain sur quasiment toute la France, avec sur la Bretagne, la Normandie, la Charente-Maritime, le Limousin et l'Alsace, des petites averses le matin, des averses qui vont un peu plus se généraliser de l'ouest au sud-ouest dans l'après-midi. En fait, il n'y a que sur les Pyrénées, le littoral méditerranéen, les Alpes et la Corse que le temps reste sec demain, avec même dans l'après-midi de belles éclaircies au bord de la Méditerranée. Le week-end, Nathalie, il s'annonce très pluvieux sur l'ensemble de la France. Lundi, le soleil revient généreusement au sud. Les températures continuent de grimper. Nous allons frôler les 21 degrés demain après-midi en France.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
Place à l'interview politique avec vous Aurélie Herbemont, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Et votre invité dans ce studio ce soir.
Sylvain Maillard, député LREM de Paris et porte-parole du groupe à l'Assemblée. Un président de la République peut-il poser avec un t-shirt dénonçant les violences policières? On en parle avec lui.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir. Suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, et c'est l'heure de l'interview politique.
Avec vous Aurélie Herbemont et votre invité ce soir dans ce studio, le député de Paris, porte-parole du groupe En Marche à l'Assemblée, Sylvain Maillard.
Bonsoir Sylvain Maillard.
Bonsoir.
Une photo fait beaucoup parler cet après-midi, celle d'Emmanuel Macron à Angoulême au Festival de la BD. Il pose avec le dessinateur Jules qui lui a offert un t-shirt dénonçant les violences policières. Alors sur ce t-shirt, on peut lire LBD 2020 et voir un chat éborgné. Est-ce bienvenu de la part du chef de l'État ?
Écoutez, il est à Angoulême. Angoulême, c'est le festival de la BD, c'est le lieu de l'impertinence. Il y a eu une discussion d'ailleurs avec plusieurs dessinateurs avant cette photo où très clairement il y a eu une discussion politique, entre autres, sur l'usage du LBD. Et donc c'est dans un espace de discussion qu'a eu lieu cette photo. Il n'y a rien de particulier, au contraire je crois qu'à Angoulême on peut tout dire et je trouve que c'est plutôt parfois dessus, il ne faut pas être trop regardant sur les photos et rester, ce qui est à Angoulême reste à Angoulême.
Ce qui est à Angoulême reste à Angoulême. Alors Emmanuel Macron le dit à Angoulême, il est en désaccord avec l'approche du dessinateur Jules, mais défend, vous le disiez, la liberté d'expression, l'insolence, sauf que ça ne convainc ni Jean-Luc Mélenchon qui accuse le président de banaliser les violences policières, ni Éric Ciotti du côté de la droite qui dénonce un outil de propagande anti-police qui n'a rien à faire entre les mains du président. Il fait des mécontents des deux côtés avec ce cliché.
Nous récusons le terme de violence policière.
Le président le fait aussi.
Mais exactement, la majorité récuse ce terme. Les policiers font leur travail et font bien leur travail. Moi qui suis député de Paris, depuis plus d'un an, je vois les policiers faire en sorte que l'ordre soit restauré dans Paris, entre autres. Et donc, ils font parfaitement leur travail. Et puis, il y a des débordements, il y a des choses graves, individuelles, qui sont sanctionnées, qui seront sanctionnées par la justice également. Mais prendre le terme de violence policière et jeter l'anathème sur l'ensemble des forces de police est quelque chose que nous récusons.
Donc, cette photo ne vous a pas du tout dérangé quand vous l'avez vue apparaître sur les réseaux sociaux?
Vous savez, sur les réseaux sociaux, on voit plein de choses.
Alors, parlons des retraites. Sylvain Maillard, le Premier ministre a bon espoir d'arriver à un compromis avec les syndicats sur le financement du régime. En attendant, le Parlement est au travail et certains peut-être plus que d'autres. On a un record d'amendements ce soir. Déjà 17 000 amendements déposés essentiellement par les insoumis. Jean-Luc Mélenchon avait prévenu qu'il assumerait de faire de l'obstruction. On y est ?
Ben, il l'avait dit clairement, il voulait faire de l'obstruction. Il estime que finalement les parlementaires, parce qu'évidemment en déposant 17 000 amendements, ça empêche le travail du parlementaire de travailler sur chacun des amendements, de regarder ce qui est bien, de porter des idées. L'idée c'est quoi ? C'est de faire obstruction et qu'avant la fin de la session, donc le 8 mars, juste avant les élections municipales, eh ben, on ne puisse pas adopter le texte. On s'y attendait.
Vous redoutez de ne pas tenir le timing justement ?
Nous allons tout faire pour tenir le timing parce que je crois que les Français veulent que nous votions ce texte. Et puis, c'est notre travail de pouvoir faire en sorte que ce texte soit voté dans de bonnes conditions, conformément à l'engagement que nous avons pris avec les partenaires sociaux.
Mais alors, vous critiquez le fait qu'ils déposent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amendements. Mais en même temps, le droit d'amendement, c'est un droit constitutionnel pour le député. Chez En Marche, certes, on vous a dit qu'il fallait faire preuve d'une certaine modération, je crois que c'était le terme, dans les amendements, mais vous ne pouvez pas contraindre l'opposition à faire comme dans la majorité.
Bien sûr, je constate et je dénonce cette sorte d'obstruction. Au contraire, je crois que le Parlement, c'est le lieu du débat. On peut débattre de toutes les idées. C'est intéressant de débattre de toutes les idées. Moi, je vois nos partenaires allemands qui, par exemple, sur des textes fondamentaux, d'ailleurs sur les retraites, il y a quelques années, il y a entre 80 et 100 amendements qui sont largement débattus un à un. Chaque député peut travailler parfaitement l'amendement. Quand il y en a 17 000, 20 000, 30 000, vous savez quoi ? Les insoumis n'ont même pas lu leurs amendements. C'est leurs attachés parlementaires qui doivent les pondre à vitesse grand V.
Alors, il y a jusqu'à demain midi pour déposer les amendements. Je vais quand même vous donner le nombre record total. Peut-être que ça va vous faire un petit peu peur. Le record, c'était au moment de la privatisation de GDF en 2006, il y avait eu 130 000 amendements.
Bien, bah, nous sommes encore bien loin. Heureusement, non mais vraiment, je trouve ça dramatique qu'on ne puisse pas discuter dans l'enceinte de l'hémicycle, qui est quelque chose de très important, qui est le cœur battant de notre République. D'ailleurs, ça en dit beaucoup sur la France insoumise, comment elle perçoit ce qu'est la République, la démocratie, un point supplémentaire ou une pierre supplémentaire dans le jardin de la République et de la perception qu'ils ont du rôle de député.
Député, c'est faire des amendements pour voter la loi.
Non, député, c'est d'améliorer la loi, de faire en sorte de co-construire la loi, de pouvoir l'améliorer et de faire valoir ses idées. C'est pas en aucun cas d'empêcher que la loi puisse être votée.
Alors, on va parler un petit peu de Paris maintenant, puisque vous êtes député de Paris et vous soutenez Benjamin Griveaux dans cette campagne. Hier, le bureau exécutif de votre parti a pris acte que Cédric Villani n'est plus membre d'En Marche. Bref, il est exclu. Est-ce que ce n'est pas le signe d'une panique à bord alors qu'il est dissident depuis le mois de septembre et la sanction tombe pile au moment où Benjamin Griveaux est à la peine dans les sondages ?
Nous, on l'a toujours dit, et là je porte la parole de Benjamin Griveaux, on a toujours dit que nous ne souhaitions pas que Cédric Villani soit exclu de La République En Marche. Et nous l'avons dit dès le début, dès le mois de septembre, et nous continuons, et Benjamin Griveaux l'a exprimé publiquement. Après, il y a une décision d'un mouvement politique, Stanislas Guérini est dans son rôle, de dire qu'il n'y a pas d'exception à faire, surtout suite à l'épisode de l'Élysée dimanche dernier.
Et vous pensez que c'est ça qui a pesé dans la balance ?
Il doit y avoir sanction parce que on est plus, quand on se désolidarise du président de la République de façon aussi ouverte, on n'est plus dans le message de ce que nous voulons porter, on n'est plus dans le message politique, on n'est plus même dans l'idée de ce qu'est le mouvement politique qui nous a porté en 2017. Nous l'entendons. En même temps, nous, à Paris, nous construisons le plus grand rassemblement possible parce que nous pensons que la politique d'Anne Hidalgo ne doit pas être continuée, parce que le bilan est très mauvais d'Anne Hidalgo. Et donc, nous demandons à Cédric Villani, depuis des mois et des mois, de nous rejoindre. Et la main reste tendue en permanence.
La main reste tendue alors qu'il vient d'être exclu par le parti ?
Oui, nous l'avons dit, et je vous le redis, et nous lui avons signifié.
C'est pas un très bon signe quand même.
Il y a des discussions régulières entre Cédric Villani et Benjamin Griveaux et de dire oui, la place de Cédric Villani est avec nous. Il le sait, c'est à lui aussi de faire le chemin.
Mais en l'excluant, ça donne pas forcément envie de se rapprocher de vous en vue d'un second tour éventuellement.
Je vous l'ai dit, il y a la logique de mouvements, la logique nationale et la logique parisienne. Nous, nous souhaitons que Cédric Villani rejoigne Benjamin Griveaux.
Vous pensez que Benjamin Griveaux peut gagner alors qu'il est troisième dans les sondages maintenant, derrière Anne Hidalgo, derrière Rachida Dati?
Moi, je suis persuadé que Benjamin Griveaux va gagner, pour une raison très simple. Le bilan d'Anne Hidalgo, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Parisiens qui le disent, est mauvais. Ils ne veulent plus, les Parisiens, plus de 60%, ne veulent plus d'Anne Hidalgo comme maire de Paris.
Et dans les sondages, l'opposante numéro 1, c'est Rachida Dati, ça n'est plus Benjamin Griveaux.
Les sondages ne font pas l'élection, c'est 17 élections à Paris. C'est une humeur, le sondage est une humeur. Quand vous regardez dans le détail, arrondissement par arrondissement, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et nous, sur le terrain, on sent très bien que les Parisiens veulent une alternance. Ils en ont assez. Depuis 6 ans, tout s'est dégradé concrètement à Paris. Donc maintenant, il faut une alternance. Et l'alternance, elle est incarnée par un changement de majorité, et elle se fera autour de Benjamin Griveaux.
Alors, vous parlez des arrondissements. Alors, une petite question aussi sur le Modem, qui donc, mardi, a fini par décider de soutenir Benjamin Griveaux. Ça faisait des mois qu'on attendait la décision de ce parti allié à la majorité. Et qu'est-ce qu'on voit dans certains arrondissements? Les candidats Modem vont peut-être se retrouver sur des listes de droite, et pas sur les listes En Marche.
Le Modem soutient Benjamin Griveaux et la candidature de Benjamin Griveaux. Et donc, ils le voteront au Conseil de Paris, tous, pour que Benjamin Griveaux soit maire de Paris. C'est très clair, c'est un accord que nous avons. Et puis, de toute façon, au niveau national comme au niveau parisien, on le voit dans les derniers votes qu'il y a au Conseil de Paris, ils soutiennent la candidature de Benjamin Griveaux.
Même s'ils sont sur des listes de droite.
Il n'y a aucune ambiguïté dessus. La conjoncture dans Paris est toujours un peu compliquée. Et puis, je crois que beaucoup de soutien de Rachida Dati ou de candidats de Rachida Dati voteront probablement Benjamin Griveaux.
C'est un pari que vous faites ce soir. Merci beaucoup Sylvain Maillard d'avoir été mon invité.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec le programme.
Oui, restez avec nous parce qu'on écoute définitivement Le Monde changer ce soir. Deux invités exceptionnels ici, à mes côtés, en studio, la patronne d'Air France, Anne Rigal, et l'explorateur Bertrand Piccard. Ensemble, ils imaginent l'aviation de demain plus verte, ils nous disent tout. On fera aussi un point sur cette mesure exceptionnelle d'Air France, plus de vols vers la Chine jusqu'au 9 février. Vos questions, vos réactions, c'est au 3921.
Et vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Nathalie Lévy, et tous les jours avant 19h30, on regarde le monde changer et on s'intéresse à ce qui va se passer demain, Nathalie.
Et on s'installe au Havre ce soir. Bonsoir Jean-Gabriel Bourgeois.
Bonsoir.
Alors le Havre se tient demain soir à 19h à un meeting du Premier ministre Édouard Philippe.
Oui, Édouard Philippe est co-organisateur de cette réunion publique pour lancer la campagne des municipales au Havre. Et toute la question, eh bien, c'est de savoir si le Premier ministre sera sur la liste ou s'il sera tête de liste. Il est toujours conseiller municipal aujourd'hui. Depuis plusieurs mois, il envoie des signes tout en entretenant le mystère. Une photo de sa ville, soleil couchant, publiée sur Instagram juste après Noël. Une visite surprise à une cérémonie de vœux d'anciens combattants. Il y a 15 jours, ses soutiens en sont sûrs. L'envie est là. D'ailleurs, en septembre dernier, le Premier ministre avait publiquement rappelé son attachement à la ville dont il a été maire entre 2010 et 2017 avant son entrée à Matignon.
On n'est jamais candidat ailleurs qu'à l'endroit où l'on est enraciné, à l'endroit qu'on a dans son cœur, dans sa tête et dans ses tripes. Et moi, mesdames et messieurs, mes tripes, elles ont un goût d'eau salée. Si un jour, notez bien, si un jour je devais être candidat au municipal, je ne vois pas très bien où cela pourrait être ailleurs qu'au Havre.
Et Matignon l'assure, Édouard Philippe donnera sa réponse avant fin janvier. Demain, on est le 31 janvier, donc on est encore dans le timing.
Voilà, limite, pile.
Il fallait surtout laisser passer la présentation du projet de loi sur les retraites en Conseil des ministres avant une éventuelle annonce de candidature.
Bon, il aura donc fait durer le suspense jusqu'au dernier moment. Alors si Édouard Philippe est bien candidat au Havre, la réforme des retraites ne risque pas de parasiter sa campagne?
Eh bien, c'est le risque, car le port du Havre est régulièrement bloqué depuis deux mois. C'est l'un des foyers de la contestation du projet de réforme. Et à quelques encablures des docks, demain à 19h, salle François 1er, où se déroulera ce meeting, on s'attend donc à un comité d'accueil de manifestants. Une proche du Premier ministre le dit, s'il est bien candidat, tout le défi sera de ne pas laisser les opposants nationaliser le scrutin.
Alors on va regarder ça de près demain, 19h. On a le rendez-vous avec vous. Merci beaucoup Jean-Gabriel Bourgeois. À présent, demain le Brexit, et c'est vrai que tout commence demain. Toute la semaine, on vous raconte cette folle histoire d'une désunion européenne avec Emmanuel Calafiore. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Ce soir, vous nous racontez la fin des années Thatcher alors.
En 1988, Margaret Thatcher fait un peu comme cette chanteuse britannique Tiffany. Elle pense qu'elle est seule au monde. Les frontières du Royaume-Uni restent fermées. Elle s'oppose à tout, à une Europe fédérale, à une idée d'une communauté européenne avec sa propre monnaie. Et elle le martèle à Bruges en 1988.
Bien sûr, nous devons faciliter le passage des marchandises aux frontières. Bien sûr, nous devons aussi faciliter les déplacements de nos ressortissants à l'intérieur de la communauté. Mais nous ne pouvons pas totalement abolir les contrôles aux frontières si nous voulons protéger nos citoyens contre les crimes et stopper les trafics de drogue, les terroristes et les migrants.
Dès les années 70, la Dame de Fer voulait récupérer son argent. À la fin des années 80, c'est la même chose. Pour chaque proposition européenne, c'est toujours le même refrain. Yes, but no. En 1990, Margaret Thatcher s'oppose à la monnaie unique pour le Royaume-Uni. Pas question de supprimer la livre sterling souveraine.
Et rien ni personne ne semble pouvoir arrêter la Première ministre.
Non, rien ni personne. Mais dans son pays pourtant, elle est de plus en plus contestée. En 1990, pas de sacrifice de la Dame de Fer, non. Margaret Thatcher quitte le pouvoir. Un nouvel impôt, des positions de plus en plus anti-européennes, c'en est trop pour son propre parti. Margaret Thatcher doit démissionner, les conservateurs la remplacent par John Major.
Et alors ce changement, synonyme, oui ou non, d'apaisement ?
Non, pas vraiment. En 92, quand les Européens ratifient le traité de Maastricht, l'Union n'est que de façade. Le Royaume-Uni ne passera pas à l'euro. Comme le chante Saadé, l'amour entre le Royaume-Uni et l'Europe n'est pas ordinaire. Un petit peu comme certains vieux couples qui n'ont plus que les disputes pour se prouver qu'ils s'aiment encore.
Merci beaucoup Emmanuel Calafiore. Demain, dernier épisode. Demain, à noter deux rendez-vous hein, sur Europe 1. La matinale, très british, vous verrez, de Mathieu Béliard à quelques heures de ce Brexit avec un invité exceptionnel à 7h40, Nigel Farage, l'ancien leader britannique eurosceptique en pointe, bien entendu, dans le combat pour la sortie de l'Union européenne. Et puis, rendez-vous, nous, ici même, 18h20 pour un grand forum avec nos invités, nos équipes sur place, sur le terrain. On verra ce qui va se passer pour nous, les citoyens, pour les entreprises, pour le tourisme. Grand forum spécial Brexit demain, donc sur Europe 1.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy.
Dans un instant, c'est le rappel des titres signé Sébastien Krebs. Et puis, dans ce studio, à mes côtés, Anne Rigal, la patronne d'Air France. Elle va s'installer avec à ses côtés l'explorateur Bertrand Piccard. Ils sont tous les deux dans ce studio pour nous parler à la fois de la compagnie Air France, mais aussi de l'avion de demain.
Et vous pouvez leur poser toutes vos questions au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Un sixième malade du coronavirus identifié en France. Il s'agit d'un médecin libéral qui a été en contact avec un patient contaminé par le virus. Les 200 Français rapatriés de Wuhan par avion militaire atterriront demain dans les Bouches-du-Rhône. Ils seront placés à l'isolement dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet. Avalanche mortelle en Savoie, deux skieurs décédés dans une coulée de neige à La Toussuire dans un secteur hors-piste. Un troisième grièvement blessé. En tout, les secours sont intervenus pour 4 avalanches. Aujourd'hui, le risque est particulièrement élevé. L'actualité de la soirée, c'est aussi le cardinal Barbarin, relaxé, mais qui veut toujours démissionner. Il va retourner demander au pape de mettre fin à ses fonctions. Un adolescent de 14 ans meurt de ses blessures après une rixe à Paris, poignardé hier soir lors d'une bagarre dans le 10e arrondissement qui a impliqué une trentaine de personnes. Les députés européens adoptent une résolution pour demander à la Commission européenne d'imposer un chargeur de téléphone universel, un seul pour toutes les marques. Et puis le football ce soir, on suivra le 8e de finale de la Coupe de France, Nice-Lyon, le coup d'envoi 20h55.
Merci beaucoup Sébastien, l'info revient avec vous demain 18h à Nice, un ciel chargé demain, c'est le programme.
Oui, effectivement, sur presque toute la France, demain il y aura des nuages. Toute la France sauf le pourtour méditerranéen. Alors les nuages dominent, le ciel est très couvert demain matin jusqu'en fin de journée avec en début de journée des pluies qui vont de l'est jusqu'au sud-ouest, hein, de l'Alsace jusqu'au Pays Basque. Alors ce sont des petites pluies locales, des petites averses, et dans l'après-midi, eh bien c'est sur la Bretagne et la Normandie qu'il va beaucoup plus pleuvoir. Sur les Landes, le Gers et la vallée du Rhône,
Vous aurez quelques petites éclaircies demain et en fait le soleil, là où il va réellement briller, c'est sur les Pyrénées, le pourtour méditerranéen, la vallée du Rhône et les Alpes. Les températures, elles sont bien au-dessus des moyennes de saison demain avec 4 à 11 degrés demain matin, 4 pour Chambéry, 7 à Strasbourg, 9 à Dunkerque et dans l'après-midi, il va faire vraiment très doux. 12 degrés à Cherbourg, 14 à Besançon, 15 pour Paris, 17 à Marseille et jusqu'à 19 degrés à Perpignan.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec deux invités ce soir et deux grands invités. Vous recevez la patronne d'Air France, Anne Rigail, et l'explorateur Bertrand Picard. Ce soir, on prend la hauteur.
Oui, bonsoir à tous les deux. Bienvenue dans ce studio. Bonsoir. Bertrand Picard, vous êtes aussi directeur de la Fondation Solar Impulse, bien sûr, psychiatre, aéronaute suisse. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce studio. On est ravis de vous avoir jusqu'à 20h parce qu'il y a plusieurs choses à évoquer avec vous. Il y a un appel à des solutions pour le futur de l'aviation durable. On va l'évoquer dans un petit instant. Air France et la Fondation Solar Impulse qui ne font qu'un. En tout cas, pour cet objectif, vous allez tout nous dire. Mais bien entendu, quand on entend encore à l'instant le bulletin, le rappel des titres de Sébastien Krebs, je ne peux pas ne pas vous interroger, Madame Rigail, sur cette épidémie du coronavirus et sur les conséquences pour la compagnie Air France. Aujourd'hui, des Français sont rapatriés. Vous, comment Air France réagit, adapte son programme de vol vers la Chine ?
Alors là, nous avons suivi l'évolution qui a été effectivement différente chaque jour de cette crise. Nous sommes en lien permanent avec les autorités sanitaires françaises et internationales. Notre priorité absolue, évidemment, c'est la sécurité et la santé de nos clients et de nos personnels. Et donc, suite à ces évaluations quotidiennes, je dirais, de la situation, nous avons pris aujourd'hui la décision difficile de suspendre nos vols vers la Chine continentale, donc vers Pékin et Shanghai jusqu'au 9 février. Nous avons bien sûr également pensé aux clients et aux personnels qui sont toujours sur place en Chine et qui souhaitent revenir. Donc nous avons lancé des vols spéciaux à compter de ce soir avec des personnels qui sont volontaires pour permettre à ces clients et personnels de pouvoir revenir.
Alors il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, on l'a compris, jusqu'au 9 février. D'abord, comment vous pouvez déterminer cette date alors qu'il est la date du 9 février ? Alors
pour l'instant, on prend cette date, mais évidemment, on va regarder tous les jours les nouvelles communications de l'Organisation mondiale de la santé, de la Direction générale de la santé en France, pour pouvoir adapter cette politique et se poser la question à quel moment pourrons-nous reprendre ou devons-nous repousser cette suspension.
D'accord. Alors, des vols spéciaux, vous l'avez dit, vers Shanghai et Pékin pour encore assurer les retours des clients, des salariés. Comment, du coup, quel programme en termes de sécurité sanitaire pour les personnels au vol, les personnels à terre et pour les passagers ?
Alors, nous suivons les recommandations des autorités. Nous mettons à la disposition de nos personnels, tant les personnels navigants que les personnels au sol, donc des masques, du gel hydraulique. Voilà, tout ce qui peut leur permettre, évidemment, déjà de se sentir plus à l'aise. Et puis, je dirais, d'opérer dans les meilleures conditions. Nous avons suivi strictement toutes les recommandations. Et aujourd'hui, nous faisons appel à des personnels volontaires, puisque nous comprenons qu'effectivement, l'évolution de la situation, de la crise, puisse inquiéter nos personnels. Et voilà, donc ces décisions ont été prises en toute relation, je dirais, avec nos salariés.
Avec les représentants syndicaux des personnels navigants, puisqu'on va le dire, ils vous y appelaient clairement, parce qu'au départ, vous aviez réduit la voilure, comme on dit, et du coup, vous avez décidé, au regard aussi de leurs demandes claires, nettes et précises, parce qu'ils sont montés au créneau, de suspendre.
Alors, nous avons dialogué depuis le début de la crise, avec les salariés et avec les représentants des personnels navigants et des représentants du sol. Il y a eu plusieurs décisions. D'abord, évidemment, l'arrêt des vols vers Wuhan, la semaine dernière, déjà, je crois jeudi dernier. Puis nous avons réduit nos capacités, puisqu'évidemment il y a moins de demandes sur Pékin et Shanghai. Et puis au regard des évolutions des positions de l'OMS hier, je dirais des discussions également que nous avions avec nos salariés, nous avons décidé aujourd'hui de suspendre. C'est une décision qui a été prise par de nombreuses compagnies.
British Airways exactement, Lufthansa ou encore Iberia notamment. Encore deux mots, ces vols annulés, comment ça se passe pour les passagers ? Ils sont remboursés, ils peuvent être prolongés, comment ça se passe ?
Oui, nous
reportés,
avons
sans frais ?
Bien sûr, aménager nos conditions commerciales pour pouvoir rembourser les clients qui le souhaitent ou, s'ils le choisissent, reporter leur voyage.
Et un dernier mot enfin, le coût à ce stade ? pour Air France, alors, de ces suspensions, de ces réductions?
Il y a un impact, c'est évidemment beaucoup trop tôt pour le dire et pour estimer. Cela dépendra, je dirais, de la durée de la crise.
Alors on va regarder maintenant de près, si vous le voulez bien, tous les deux, Bertrand Piccard, Anne Rigal, cette initiative commune, Air France donc, et la Fondation Solar Impulse, qui lance un appel à solutions pour le futur de l'aviation durable. C'est un rapprochement quand même singulier. L'objectif, c'est d'accélérer dans le monde de l'aviation l'implémentation de solutions économiques et écologiquement viables. Je dis, c'est un rapprochement singulier. C'est vrai, a priori, Bertrand Piccard. Comment êtes-vous allé vers Air France, ou comment Air France est venu vers vous?
Alors, c'est peut-être un développement singulier quand on voit que pour l'avion solaire, l'aviation commerciale et les fabricants aéronautiques avaient été très sceptiques, ils avaient beaucoup ri et dit que jamais un avion ne pourrait faire le tour du monde en énergie solaire sans carburant. Donc si on le voit comme ça, c'est vrai que c'est particulier d'avoir aujourd'hui un partenariat avec une compagnie aérienne. Mais quand on voit les buts communs, c'est totalement logique qu'on fasse ce partenariat entre Air France et la Fondation Solar Impulse, parce que notre but, c'est de chercher dans le monde entier quelles sont les solutions technologiques, les produits, les systèmes, les matériaux, les programmes, etc., qui sont financièrement rentables, qui créent des emplois et qui en même temps protègent l'environnement.
Donc pour vous,
et finalement, tout le monde en a besoin. Et forcément, une entreprise comme Air France, qui est bien intentionnée sur le plan de l'environnement, va avoir besoin de solutions comme ça, donc c'est logique qu'on collabore.
Mais pour vous quand même, explorateur, fils d'explorateur, qui voyait comme ça ce réchauffement climatique, ça ne vous a pas fait violence d'une certaine manière quand même de vous associer à une compagnie aérienne dont on sait évidemment ce qui reprochait à la consommation des avions?
Mais ça ne me fait absolument aucun problème.
Violence, ça ne
fait pas violence. Mais ça ne me fait aucune violence. Puisque Air France aimerait pouvoir répondre à la demande de tous les gens qui veulent voyager, en mettant en place des solutions qui protègent l'environnement. Donc, l'intention est parfaite. On est exactement, finalement, dans cette conversion environnementale que toutes les grandes entreprises devraient faire et que très peu font vraiment. Vous savez, c'est pas Air France qui pollue, c'est pas ExxonMobil qui pollue, c'est pas l'industrie chimique qui pollue. C'est finalement les demandes des clients qui font que les entreprises répondent à ces demandes en amenant des produits sur le marché. Et pendant longtemps, ces produits ou ces services ont été polluants. Maintenant, certaines entreprises ont envie d'être de plus en plus propres. Donc, il faut aider ceux qui veulent être propres. Il ne faut surtout pas les critiquer.
Alors, on va en reparler évidemment dans un instant. Comment allez-vous procéder conjointement donc, dans cette initiative? On se le dit juste après ça.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et ses invités Anne Rigal et Bertrand Piccard, c'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et ses invités jusqu'à 20h. Vous pouvez leur poser toutes vos questions en direct, ça se passe au 39-21, n'hésitez pas. Nathalie, vous recevez la patronne d'Air France, Anne Rigal, et l'explorateur Bertrand Piccard. Ils ont un projet commun.
Oui, ce sont des invités exceptionnels avec un projet exceptionnel en quelque sorte. Merci à vous deux de nous accompagner ce soir. On l'a dit, Air France et la Fondation Solar Impulse qui lancent un appel à solutions pour le futur de l'aviation durable. Anne Rigal, c'est un pari. C'est un pari pour vous et c'est aussi une façon de vous repenser complètement.
Oui, alors vous savez, l'innovation, c'est, je crois, dans l'ADN de l'aviation. Voler, ça reste un rêve, ça reste magique. Mais aujourd'hui, on ne cherche pas dans l'innovation à avoir des avions qui vont plus vite, plus haut, qui sont plus gros. On veut surtout des avions qui ont moins d'empreintes, qui nous servent dans la transition écologique. Donc évidemment, les constructeurs et les motoristes nous accompagnent là-dedans et nous attendons, nous commandons des avions électriques, nous attendons des innovations de rupture. Nous savons que, je dirais, les innovations de rupture mettront peut-être quelques années à venir, 10 ans, 20 ans. Et nous travaillons sur toutes les autres innovations au-delà des aéronefs qui peuvent nous permettre, je dirais, d'aller plus loin. Et en ce sens, ces innovations, ce partenariat avec la Fondation Solar Impulse peut nous permettre de rechercher toutes les solutions pour réduire notre empreinte carbone, pour réduire nos déchets ou pour réduire même nos émissions sonores.
C'est comme ça en fait que vous espérez réagir au Flygskam, c'est la honte de voler en suédois dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut réagir et réagir vite, parce que une aviation verte, c'est aussi une nécessité absolue quand on voit d'autres moyens de transport qui commencent à fleurir.
Oui, Bertrand Piccard. Mais il faut aussi arrêter de chercher des boucs émissaires qui vont cacher le reste de la forêt. Parce que l'aviation, c'est 3% des émissions. D'accord. c'est moins que
c'est le quand
streaming.
Même le transport aujourd'hui le moyen de transport le plus polluant, non?
C'est moins que l'ancien, c'est moins que l'entier du streaming vidéo.
C'est moins? Vous nous dites que
c'est moins,
moins
que
le streaming vidéo.
L'entier des vidéos qui sont streamées en direct sur Internet. C'est moins que l'industrie du textile.
Donc vous dites continuons à voyager?
Absolument pas. Je dis qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur un bouc émissaire et puis ensuite oublier tout le reste. Il faut travailler sur tout. L'aviation est plus propre que la voiture. Au kilomètre parcouru, vous consommez moins par passager de carburant que sur une voiture. Donc il faut relativiser dans le sens qu'il faut chercher des solutions qui sont vraiment logiques. Alors, et il y a plein de solutions logiques. Et ce qu'il faut surtout faire, c'est valoriser ceux qui veulent faire un effort. C'est surtout pas dire, mais c'est un truc polluant, il faut l'attaquer par principe. Il faut essayer toujours de mettre des solutions et de faire mieux.
Est-ce que, malgré tout, Anne Rigal, parce qu'il y a des petites lignes, il y en a plein, des petites lignes aussi, et ces petites lignes, elles peuvent être remplacées par le train, on ne va pas se mentir. Est-ce que là, on continue de penser que, oui, l'avion pollue, mais le streaming plus? Est-ce que là, la réponse, elle est à la hauteur de l'exigence?
Vous savez, nos clients, ils n'attendent pas qu'on leur dicte le choix de prendre l'avion ou de prendre le train. Nous n'avons plus de lignes sur Lille, sur Bruxelles, sur Strasbourg, sur Lyon. Depuis le TGV en 92, nous avons fortement réduit nos fréquences. Donc, nous sommes en partenariat avec le train sur de très nombreuses liaisons. Mais je crois que nous sommes totalement conscients de l'urgence écologique. Nous sommes challengés par nos clients. Nous sommes challengés par l'ensemble, je dirais, de l'opinion publique. Nous avons nous-mêmes nos enfants qui nous challengent. Donc, nous n'avons pas besoin de prendre conscience. Nous sommes déjà dans l'action. Nous l'avons sans doute peu communiqué. Mais nous avons réduit de 25% de nos émissions par passager kilomètre depuis 2005 et nous avons pris l'engagement de réduire de 25% de plus d'ici à 2030. Et pour cela, cela passe par un renouvellement, je dirais, de notre flotte. Nous avons aujourd'hui des avions de nouvelle génération qui sont disponibles, comme l'Airbus 350. L'Airbus 350 qui vient d'entrer dans notre flotte, nous en avons commandé 38, c'est 25% d'émissions de carbone en moins. Et donc, la moitié de notre flotte va être renouvelée d'ici à 2025. Et par rapport à ça, nous rajoutons de très nombreuses actions. Nos pilotes, ils sont engagés dans l'éco-pilotage. Par exemple.
Alors, c'est intéressant parce que vous avez signé une tribune, tous les deux, dans Le Monde, le 5 janvier 2000, là, en début d'année, le 5 janvier, une tribune quand même optimiste sur le réchauffement climatique. Hein. C'est vraiment aujourd'hui ce que vous croyez fondamentalement? Vous
Attention,
êtes dans.
J'ai pas dit dans cette tribune, et Anne non plus, qu'on était optimiste
non,
par rapport au changement climatique. Le changement climatique
par rapport à
sont
fait.
Gravissimes. Il y a urgence absolue et il faut mettre tous les efforts pour arriver à contrer cette catastrophe qui s'annonce.
Sur les démarches, j'entends.
Mais sur les démarches, il y a tellement de solutions. Vous savez, avec la Fondation Solar Impulse, on est en train de labelliser des centaines de solutions qui sont financièrement rentables pour protéger l'environnement. Je sors aujourd'hui de Change Now, où on voit l'inventivité, la créativité des startups. Tout est à disposition. Ce qui manque, c'est l'implémentation. Ce qui manque, c'est la réglementation qui va favoriser les technologies propres plutôt que les technologies sales comme on le fait aujourd'hui. Donc, il faut bouger. Il faut bouger. Et puis, on implémente tout ce qu'on peut sur le plan technologique. Et puis, en attendant d'avoir les solutions ultimes, eh bien, il faut compenser déjà les émissions de carbone qu'on produit.
Alors,
moi, ce qui a été le déclencheur pour l'alliance avec Air France, c'est le fait qu'Air France annonce spontanément qu'ils allaient compenser toutes les émissions de carbone des vols intérieurs.
Exactement. Alors, on va évidemment revenir sur cet accord, je le disais, singulier quand même, parce que vous, Bertrand Piccard, on connaît votre parcours, d'explorateur, on sait évidemment votre contact avec la planète. On se repose ces questions dans une petite seconde.
Nathalie Lévy et ses invités, c'est votre grand journal du soir et c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et ses invités. Vous recevez la présidente directrice générale d'Air France, Anne Rigail, et l'explorateur Bertrand Piccard. Ensemble, ils s'allient pour notre planète.
Et oui, ils s'allient pour notre planète, un partenariat pour accélérer dans le monde, pour effectivement le futur de l'aviation durable, des solutions pour le futur de l'aviation durable. Air France, la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard. Alors, clairement, comment ça va se... À quoi ça va consister exactement ce partenariat? Quand est-ce que ça démarre précisément? Comment ça se traduit?
Alors, on a déjà annoncé, on a déjà signé, c'est officiel, et ça se traduit par un appel à solutions au sein de tous les innovateurs dans le monde, parce que quand c'est des écologistes qui demandent des solutions, souvent les entrepreneurs se disent « ouais, ça ne va pas aboutir ». Mais quand c'est une compagnie aérienne qui appelle pour avoir des solutions, eh bien ça vient et ça peut être implémenté. Donc c'est un appel d'air extraordinaire dans le monde de l'innovation pour être appliqué dans le monde de l'aviation.
Anne Engel.
C'est exactement ce que vient de dire Bertrand. L'intérêt de ce partenariat, c'est que les solutions qui peuvent être travaillées peuvent être testées. On peut tester leur viabilité économique, écologique sur nos 1000 vols par jour. Et puis l'intérêt aussi, c'est de que ces solutions soient disponibles pour le reste de l'industrie, qu'elles soient mises vraiment à disposition des autres acteurs et qu'elles ne soient pas seulement pour Air France.
Alors, ces solutions, c'est bien. On a quoi ? On a aujourd'hui des éléments concrets, Bertrand Piccard ? Vous pouvez nous donner des illustrations ?
Alors, on voit que dans chaque solution, on gagne quelques pourcents et qu'en additionnant le tout, on gagne beaucoup.
C'est-à-dire
une des solutions, par exemple, SkyBreath. C'est un logiciel qui permet d'optimiser les plans de vol et le pilotage, qui permet aux pilotes d'économiser à peu près 5% de carburant sur un vol. C'est déjà beaucoup. Ensuite, il y a ce que les constructeurs permettent d'économiser avec des nouvelles technologies. Il y a les procédures aussi pour avoir des vols plus directs, des routes plus directes. Ça doit être négocié entre les pays.
Plus direct et plus rapide.
Et plus rapide. Donc, on consomme moins puisqu'on est moins longtemps. Des descentes en approche constante plutôt que des paliers. Sur un jumbo jet, c'est une tonne de kérosène économisée à chaque atterrissage. Mais pour négocier ça avec les contrôleurs aériens, il faut des compagnies aériennes, il faut que le monde de l'aviation le demande, pas seulement les mouvements écologiques.
Alors justement, le mouvement de l'aviation le demande, mais est-ce que, Anne Rigal, vous êtes soutenue par les institutions, par les pouvoirs publics dans cette démarche aussi ?
Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience que pour arriver à accélérer cette transition du transport aérien, il faut que l'ensemble de la chaîne de valeur, l'ensemble des acteurs de l'industrie, les constructeurs, les motoristes, les gouvernements, nous accompagnent effectivement dans cette transition. Lundi dernier, nous étions à Toulouse avec Elisabeth Borne, avec Jean-Baptiste Djebbari, avec Airbus, avec Safran, avec Suez, pour annoncer un appel à intérêt sur le développement d'une filière de carburant durable en France. Le carburant durable, c'est également, ça fait partie des solutions qui peuvent aujourd'hui, dès aujourd'hui, parce que c'est techniquement accessible, nous permettre de réduire fortement notre empreinte carbone. Aujourd'hui, nous allons chercher des carburants durables à San Francisco. À partir de juin, dans les vols d'Air France au départ de San Francisco, nous aurons du carburant durable à partir...
Ça, c'est une annonce que vous nous faites là ce soir sur Europe 1. Ce sera le cas à partir de juin avec ces carburants.
À partir de juin, tous les vols Air France au départ de San Francisco incorporeront dans leur carburant des graisses usagées, non comestibles, collectées. Donc c'est de la récupération. Et évidemment, ça permet de ne pas émettre du CO2 en plus sur la planète. Et nous souhaitons pouvoir utiliser de carburants durables au départ de la France. Mais il faut travailler avec les pouvoirs publics, avec les constructeurs, avec les producteurs d'énergie pour que ce soit économiquement accessible, puisqu'aujourd'hui, ces carburants durables, c'est 2 à 3 fois plus cher.
Ah oui. Alors, Bertrand Piccard, l'avion électrique, l'avion de demain, d'ailleurs, l'avion de demain, je me trompe en disant ça, l'avion électrique, l'avion d'aujourd'hui,
tout à l'heure, mais l'avion électrique, c'est même l'avion d'il y a 4 ans, parce que Solar Impulse a fait le tour du monde il y a 4 ans. C'est un avion électrique, alors il était approvisionné par de l'électricité qui venait du soleil, mais je pense que dans un premier temps, l'aviation commerciale utilisera des avions électriques qui sont chargés au sol. Les panneaux solaires ne seront pas sur les ailes, ils seront sur le toit des hangars ou de l'aéroport, et on chargera les avions pour faire 2 ou 3 heures de vol, c'est-à-dire du court courrier.
Quand ? Parce que vous, c'était 2015-2016. Sérieusement.
Dans 7 ans et demi.
Dans 7 ans et demi,
oui, je suis très précis.
Vous êtes...
parce
oui, c'est ça ?
Oui, parce que ça fait 2 ans et demi que j'ai dit dans 10 ans. D'accord. Il ne faut pas dire toutes les années dans 10 ans, sinon on n'avance
jamais.
Surtout
qu'il y a des archives, donc on sait
exactement
ce que vous avez
dit. Le compte à rebours a commencé.
Bien sûr.
Vous parlez de ce partenariat comme quoi il est un peu singulier, etc. Mais vous savez, moi je suis un peu provocateur aussi vis-à-vis d'Anne Rigaille. Moi j'ai donné le conseil à Anne de commander officiellement à Airbus des avions court-courrier 100% électriques pour 50 places.
Ouh là là. Ah, combien, Adrigal ?
Ça, ça permet. Mais ça, ça permet.
Ah, parce que vous déjà challengez, moi aussi. Alors, combien d'avions commandés, Adrigal ? Et à partir de quand
non,
sur le tarmac ?
Pas encore commandé. D'accord. C'était okay. Mon conseil.
Nous commandons effectivement des avions pluviaires. Nous avons déjà commandé 38 Airbus 350 et 60 ouais. Airbus 220. Bon, ils font 20-25% d'économie de carburant. Mais effectivement, l'enjeu, c'est d'avoir des avions électriques ou des avions à hydrogène. Dans le futur, c'est vrai que les constructeurs nous le promettent, ils attendent l'émergence de solutions de rupture. En attendant, nous utilisons toutes les solutions, je dirais, de transition. On a un petit avion électrique, on a un partenariat avec la Fédération française aéronautique et on utilise pour la formation de nos pilotes cadets un petit avion qui s'appelle le Pipistrel et qui, pour leur formation, effectivement, ils utilisent et nos mécaniciens font la maintenance également de cet avion pour, je dirais, se familiariser à ce que serait la maintenance sur des avions électriques.
Alors Bertrand Piccard, Anne-Rigal, on resterait bien avec vous une heure et demie encore, mais il nous reste quelques secondes à peine pour vous poser cette question simple. À quand un avion électrique pour faire Paris-New York ?
Paris-New York, pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Mais moi, j'ai appris une chose. J'ai appris une chose importante. Il ne faut jamais dire que c'est impossible parce qu'on se décrédibilise. Les gens qui ont dit aux frères Wright que c'était impossible de voler, ont passé quelques années après pour des abrutis complets. Donc, il faut simplement dire, aujourd'hui, on ne voit pas exactement comment on pourra le faire, mais on va chercher des solutions pour le faire. Et il ne faut pas dire, parce que c'est difficile de faire Paris-New York, l'aviation électrique n'a pas d'avenir. Le début de l'aviation électrique, ça va être Paris-Toulouse et pas Paris-New York.
Bien entendu. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anne-Rigal, merci Bertrand Piccard d'être venu passer une demi-heure avec nous dans ce studio pour tout nous dire sur l'aviation durable et sur ce partenariat ensemble, donc avec Solar Impulse, la fondation Solar Impulse, Air France. Merci infiniment. Émilie Mazoyer.
Salut Nathalie.
Bonsoir à vous. Alors, le programme du jour.
Ah, aujourd'hui, on va recevoir un des artistes électro les plus demandés de la planète. Il était même dans la playlist d'été de Barack Obama et pourtant, il est français, The Avener. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go. Ça, c'est fait un bel invité. C'est vraiment le tube qui a fait le tour de la planète. Et il a sorti vendredi un deuxième album, The Avener. Ça s'appelle Heaven. Et comme son nom l'indique, oui, c'est le paradis. Et il y en a à nous en parler tout à l'heure.
Pour lui, en tout cas, carrément.
Carrément.
Merci beaucoup, Émilie Mazoyer. On reste à l'écoute. On reste branché sur Europe 1. Demain soir, 18h-20h, votre grand journal du soir. Avec l'accent. Parce que nous serons en plein Brexit avec cette date, évidemment. Et nous, en forum, dès 18h20, nos invités, avec l'accent tous autant qu'on est. Hein, c'est le pari. Merci encore à nos invités, Anne-Rigal et Bertrand Piccard. L'info continue. Et merci de votre fidélité. Restons ensemble pour écouter Le Monde Changer.
Merci beaucoup. C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.